Courtoisie.
Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS. Et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 mai 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 29 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Belle musique, décidément, je ne m'en lasse pas. Amis de la Résistance, bonsoir. Je n'avais pas remarqué que Victoria parlait d'elle comme de long à la troisième personne. Vous avez remarqué?
Moi, j'ai...
Oui, avec l'assistance de Victoria, dit Victoria.
Hein? Elle est contente.
Elle est contente.
Elle parle. Oui. Victoria, elle parle.
Victoria, elle
parle. Oh là 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 là. Ça me dépasse complètement ce que vous dites.
Oui,
je ne comprends
grand,
rien.
On a l'habitude.
Je sors des embouteillages. Je voudrais la chaleur.
Je voudrais dédier cette émission à M. Fillon. Parce que M. Fillon, oui, mais je lis Le Monde, moi. Et dans Le Monde, M. Fillon a découvert que le Parti communiste dit français nourrit l'extrémisme.
Et ben, c'est
quand même, ça prouve qu'il est, même un ministre de Chirac, enfin de Raffarin, peut faire preuve d'intelligence. Mais il aura mis que 87 ans à comprendre. 84 ans à comprendre. Le PCF nourrit l'extrémisme, il a dit, enfin, l'extrémisme. Il est fâché.
La France aux ordres d'un cadavre extrémiste.
Voilà. Donc ce soir, plan de la presse, mais d'abord, parce qu'il faut que j'explique pourquoi, je vais donner d'abord la parole à deux invités qui vont nous présenter, l'un un camp de vacances et l'autre une association. D'habitude, on fait ça dans le sens inverse. Mais cette fois-ci, d'habitude, on est en kikiné, je pèse mes mots. Dans d'autres temps, j'aurais dit emmerdé par les footballeurs. Et ce soir, c'est simplement les tennismen. Ils sont d'ailleurs aussi en kikinant que les autres, mais plus propres sur eux quand même.
C'est pas ça, ils finissent plus tôt.
plus blanc, parce que les footballeurs, parce que les tennismans sont en blanc, vous ne voyez aucune allusion.
Ils sont en blanc plus maintenant, vous datez, mon professeur.
Alors donc, j'avais peur que nos amis, Camille Gallic, Jean Madiran, Jean-Claude Varane, Emmanuel Ratier et Patrick Goffman n'arrivassent en retard. Je peux le faire si je veux aussi. Et donc, j'ai donné d'abord la parole à Maître Philibert Lepi et à Monsieur Charousset. On va commencer par les choses sérieuses, puis après, on parlera de vacances. Maître Lepi, vous créez un comité national d'action contre la violence, la discrimination et la spoliation. C'est-à-dire CNAC de... C'est pas désagréable, mais...
C'est le CNA VDS.
Ah, le CNAVDS.
Le CNAVDS. Alors, je donne tout de suite le numéro de téléphone.
Voilà.
C'est le 01 60 11 74 10. Je répète. 01 60 11 74 10. Et l'adresse postale, c'est 8 allée du Béarn. Et c'est à Massy 91 300. Alors, le but du comité d'action, comme son nom l'indique, c'est d'agir. C'est d'agir contre la violence, la discrimination et la spoliation. Il est clair que nous ne sommes pas là pour réfléchir, mais pour agir. Donc nous avons besoin de militants. Nous avons besoin de militants et nous avons besoin de donateurs. Nous ne sommes pas une association, nous ne voulons pas d'adhérents. Notre but est extrêmement simple. À partir du moment où vous êtes soit agressé, soit menacé de mort, soit outragé, vous prenez contact avec le comité, nous viendrons vous voir et nous vous aiderons à vous organiser. Nous avons des tracts, nous avons des fiches victimes à remplir. Et donc, il est nécessaire qu'à partir de maintenant, les gens se prennent en main au niveau local. Le comité national est là pour aider les gens au niveau local.
Et vous placez sous l'égide de l'article 15, alinéa 3 du Code de procédure pénale, qui dit « porter plainte contre le ou les auteurs d'une infraction pénale dans un commissariat ». Je ne dis pas exactement ça, mais qui revient à dire que porter plainte est un droit qui ne peut vous être refusé. C'est une chose qu'il faut savoir, parce que maintenant, quand vous arrivez dans un commissariat, la première chose qu'on vous dit, en général, parce qu'ils veulent pas, il faut faire baisser la statistique, parce que Sarkozy soit content.
Voilà.
Donc on vous dit « oh mais non, mais ça ne vaut pas le coup de porter plainte, de toute façon ça n'aboutira pas ».
Alors, c'est très simple, on ne peut pas vous refuser de porter plainte. Si on vous refuse ce droit dans un commissariat, vous prenez contact avec nous.
Voilà, vous appelez le 0.
On vient dans, voilà, le 06 60 11 74 10. 60 11 74 10. Et à partir de ce moment-là, on viendra avec vous déposer plainte. Okay. Je viendrai personnellement en tant qu'avocat et je demanderai à voir le commissaire pour qu'on enregistre votre plainte. La main courante est une création de la police. Ouais. Elle est administrative. Elle n'a aucune valeur juridique.
Absolument. C'est bien de le dire. Moi, j'ai vu l'autre jour de ma fenêtre, vous allez dire, c'était comme ça, je ne raconte pas d'histoire, j'ai vu un arabe qui était en train de se faire tabasser par deux autres arabes. Bon. Alors, j'ai regardé jusqu'au moment où j'ai trouvé que ça devenait quand même un petit peu, ça sortait du simple, de la simple distraction pour devenir que je devenais le témoin de quelque chose de déplaisant. Et j'ai appelé le commissariat de mon quartier où j'ai entendu une jeune femme policière, enfin en uniforme, j'ai reconnu l'uniforme à sa voix, qui m'a dit, mais c'est pas nous qu'il faut appeler, il faut appeler le commissariat central. Alors j'ai dit, bah, appelez le commissariat central, parce qu'il y a un type qui est en train de se faire casser la gueule, purement et simplement, devant chez moi. Et elle a eu cette réponse, elle m'a dit, ah non, là on ferme, il faut que vous appeliez vous-même. Voilà. Voilà où on en est maintenant.
Ah oui, non, mais bon. Il est clair qu'il faut maintenant se prendre en main et s'organiser. Alors vous verrez dans le dossier que je vous ai remis, Serge, nous avons des fiches pour les violences, les discriminations et les spoliations. Donc à partir du moment où un comité local existe, on leur donne ces fiches, on leur donne des formulaires de plainte, les gens peuvent les remplir, les déposent dans leur commissariat, les envoient au procureur de la République et nous les envoient à nous au comité national. Après, le comité national prend contact avec le parquet, prend contact avec le commissariat et nous exigeons de savoir ce qui se passe. Et nous venons voir les gens du comité local pour leur expliquer ce qui se passe. Il faut maintenant agir. Alors, c'est ce que j'ai fait, moi. Je vais vous donner un exemple de notre action, la cité Verdun. La cité Verdun, c'est l'OP HLM du 92. Il y avait une dizaine de jeunes qui avaient pris l'habitude de squatter dans le local d'entrée d'un immeuble. Alors, ça a été très simple. Après avoir un petit peu discuté avec les gens, moi j'étais voir le procureur de la République. Et je lui ai dit, voilà, monsieur le procureur de la République, c'est simple. Soit on fait quelque chose tous ensemble, c'est-à-dire vous, procureur, l'OPHLM, moi, en tant qu'avocat, avec les gens de la résidence, sinon moi je ne réponds plus de rien. Et
je
dégage toute responsabilité, je vous aurais prévenu. Le procureur de la République, immédiatement, m'a dit, maître, pas de problème, je vais organiser un rendez-vous avec le capitaine de la BAC, on va solutionner. On a fait mettre des vigiles qui, chaque fois que les voyous venaient faire du scandale, arracher les boîtes postales, casser les portes, prévenez la BAC. La BAC arrivait, ils ont été interpellés, ils ont été déférés en comparution immédiate. J'étais là, j'ai plaidé en partie civile, 1 an, mandat d'arrêt. Mandat de dépôt, excusez-moi.
Très bien.
Le lendemain, le calme était revenu. Voilà le genre d'action précise que l'on peut faire. Donc c'est extrêmement simple, vous prenez contact avec le comité.
Voilà. Alors rappelons le téléphone, 01 60 11 74 10. 01 60 11 74 10, vous demandez le Comité national d'action contre la violence, la discrimination et la spoliation.
8 alors, allée du Béarn, 91 300, Massy.
Alors j'insiste particulièrement sur la spoliation, parce que qu'est-ce que c'est la spoliation ? La spoliation, c'est très simple. Lorsqu'on vous brûle votre voiture, que vous en avez besoin pour travailler, qu'on vous la rembourse à l'Argus, et que vous devez racheter une autre voiture, ça c'est un cas de spoliation. Et quand il n'y a pas une voiture, mais quand il y en a 25 qui brûlent dans votre ville, à partir de ce moment-là, je pense que vous avez intérêt à créer un comité contre la spoliation et de nous prévenir.
En plus, ça se passe de nuit en général, donc c'est de la spoliation nocturne, bien entendu.
Et dites-moi, maître, puisqu'on tient un juriste, en dehors de la spoliation, est-ce que le crime d'incendie volontaire n'est pas puni de 10 ans ?
Alors l'incendie volontaire, c'est un crime. Ça, donc, ça relève de la cour d'assises. Donc la personne qui met le feu à une poubelle ou à une voiture, nous demandons, et nous irons voir le procureur de la République pour exiger qu'il passe devant la cour d'assises. Il n'y a aucune raison qu'on applique une technique particulière des procureurs qui est la correctionnalisation. C'est-à-dire de déqualifier et de transformer le crime en délit. Nous ne demandons que l'application de la loi pénale. Mais toute l'application de la loi pénale.
Vaste programme, n'est-ce pas, Serge ?
Mais oui, mais je trouve ça extrêmement sympathique. Je reconnais d'ailleurs, maître Lepi, ce sens de l'action sur le terrain. Pas de bavardage, des actes. Merci.
Ben, je vous remercie. Et puis j'espère revenir un jour.
01 60 11 74 10.
Donc je tiendrai au courant par l'intermédiaire de Serge et je reviendrai pour.
On en parlera plus longtemps.
On en reparlera plus longtemps.
Longuement. Merci beaucoup, à bientôt. Monsieur Charousset,
c'est lui,
l'aventureux traditionnel.
Oui.
Donc vous êtes vous représentez aventure. Je sais pas ce que vous êtes d'ailleurs, secrétaire général.
Je suis vice-président de l'association Aventure et Tradition.
Voilà, Aventure et Tradition, très chic, très beau, pas cher. Aventure et Tradition. On ne répétera jamais assez puisqu'on a tout le temps de nouveaux auditeurs. Qu'est-ce que c'est, premièrement?
Voilà, on va faire un
comment
petit
rappel.
Comment ça
marche? Combien ça coûte? Où
voilà,
ça va?
Surtout, oui, des choses, plein de choses intéressantes à savoir. Donc, Aventure et Tradition est une association familiale de bénévoles. Notre présence est sur toute la France. Et nous réalisons des camps pour les enfants de 8 à 18 ans, garçons et filles. Des camps qui sont habilités jeunesse et sport. Dans les activités montagnardes. Bon, pourquoi les activités montagnardes ? Parce qu'on considère que la montagne en elle-même est une école de la vie. Donc, même à elle seule, elle constitue quand même quelque chose qui apporte beaucoup. Qui apporte
vous n'êtes
beaucoup.
Pas fatigué de le faire ?
Moi, personnellement, je ne suis pas fatigué. Les enfants, ça aurait tendance...
Les montagnards sont là.
Les enfants, par contre, ça aurait tendance à les fatiguer de temps en temps, mais Dieu merci, ils se ressaisissent. En mettant les points sur les i.
Alors, c'est pas une association politique, première chose.
Non, première chose.
C'est pas une association culturelle, deuxième chose. Mais on a quand même le droit d'aller à la messe quand on est chez.
Alors, on a parfaitement le droit d'aller à la messe. Non seulement on a le droit, mais je fais tout pour qu'on puisse assister à la messe, puisque je fais lire une messe traditionnelle, soit sur le camp.
La messe, quoi, tout simplement.
La messe. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi je. Excusez-moi, monsieur.
Non, mais je vous en prie.
Comme à Rome, alors.
Allez, comme à Sainte-Marie-Majeure.
Donc, qui est dite soit sur le camp, soit si à l'église du lieu où nous sommes, si le curé de la paroisse veut bien nous prêter son église, ce qui a été le cas l'année dernière. Donc, de ce côté-là, ça s'est parfaitement bien passé.
Ce que vous entendez, les bruits, là, c'est pas monsieur Charousset qui se craque la gorge, c'est Victoria qui fait bouger des chaises.
Avant de faire bouger doucement, tables. Je fais beaucoup moins de bruit que vous,
c'est. Oui, ça, c'est pas difficile.
Alors,
cette année, où se
alors,
passe
cette année, ça se passe à Loudenviel, dans les Hautes-Pyrénées. Le même endroit que l'année dernière, d'ailleurs, avec des conditions de confort un peu exceptionnelles, puisque nous avons la chance d'avoir une installation municipale.
C'est pas spartiate, alors.
C'est moins spartiate.
Moins spartiate.
Oui. Mais enfin, ça l'est quand même. Dès l'instant où on part en montagne et on va bivouaquer en montagne, donc là, on est quand même dans le spartiate à très fort pourcentage.
Jusqu'à présent, vous avez toujours apporté au complet.
Nous sommes toujours revenus partis au complet et revenus au complet. Il y a
ni,
jamais
ni plus ni moins.
Ni plus ni moins, comme on dit chez nous. Et néanmoins, si vous voulez, comme j'insiste un petit peu sur l'aspect habilité jeunesse et sport, qui comporte un certain nombre de contraintes auxquelles nous essayons d'anticiper, même dans certains cas, puisque cette année nous aurons sur le camp un médecin probablement, donc
ah oui.
et un secouriste, lequel secouriste devait arriver tout de suite là, mais
c'est le petit-fils de Benjamin Guillemin.
Voilà, c'est exactement, c'est Nicolas Guillemin.
Il pourra venir dans l'émission de son grand-père, ça lui apprendra à être en retard dans mon émission.
Voilà, ça lui fera les pieds pour un montagnard.
Pour un montagnard, très bon. Donc, quelles sont les dates?
Alors, les dates, c'est du 13 au 27 juillet. Mmh. Ceci étant, je voudrais insister aussi sur l'aspect de la tenue, parce que nous sommes très attachés à la tenue.
Oui, j'allais vous poser la question, il y a une
tenue. Nous sommes très attachés à la tenue. Knickers bleu, ceinture beige, boucle dorée, chemise bleu ciel.
Boucle dorée, non.
Hein?
Ah non, boucle dorée.
Dorée.
J'ai compris, boucle dorée, j'essaye.
Pull marin commando, bleu, chaussures de randonnée avec lacets rouges, très important.
Ah,
et chaussettes de randonnée, couleur écrue, béret rouge ou vert selon la catégorie, selon que vous êtes mousse ou matelot.
Là, je suis affolé parce que les Rangers à lacets rouges, c'est l'uniforme des Redskins, des skins d'extrême gauche.
Je connais un juste
le
qui va se retrouver à Aventure et Tradition avant qu'il soit leur...
Ah, pas avec des lacets rouges sur ces Rangers, c'est pas possible.
Il aura le droit d'avoir des lacets bleus, alors.
Bon, on va être obligé de faire quelque chose.
Ah, oui, réagissez.
Il faut qu'on y réfléchisse. Oui.
Ça, ne laissez pas avoir par les lacets.
Donc, on va pas se laisser lasser pour
du 13 au 27.
Oui. Alors du 13 au 27, donc les enfants de 8 à 18 ans et donc les prix, faut quand même parler des prix.
Ouais.
La situation géographique, on en a parlé, donc c'est près de
Pyrénées orientales.
Voilà, Pyrénées, Haute-Pyrénées.
Ah, Haute-Pyrénées.
Mais Bagnères, c'est près de Bagnères de Bigorre.
En plus, c'est bon pour la santé.
C'est très très bon pour la santé. Alors, les prix. Enfants de 12 ans et plus, 450 euros le stage. Et les enfants de moins de 12 ans, non, c'est le contraire. C'est les enfants de moins de 12 ans, 450 euros, excusez-moi. Ceux de plus de 12 ans, c'est 520 euros le stage.
Le stage qui dure ?
Qui dure 15 jours. 15 jours.
Ils mangent plus, c'est pour ça, non ?
Ils mangent plus ou plus ?
Les grands. C'est plus cher parce qu'ils mangent plus.
Non, alors c'est plus cher parce qu'ils n'ont pas les mêmes activités. Ils ont des activités... et qui sont un peu plus pointus, si j'ose dire, et qui nécessitent l'intervention d'un guide de montagne.
Ah, d'accord.
Entre autres. Hein, ça, c'est une des explications.
Mais vous faites de la varap et de l'escalade, ou simplement de la
randonnée, de l'escalade et de l'alpinisme.
Ah, oui.
Il y a trois activités selon les niveaux, et il faut savoir une chose, c'est qu'on ne demande jamais à un enfant de faire ce qu'il n'est pas capable de faire, bien entendu.
Ça, vous le savez après.
Les enfants, ça, on le sait après.
S'il est capable ou pas. Une fois qu'il est tombé, oui, il n'était pas capable.
Ouais, là, ça, c'est sûr que c'est un constat infaillible.
Toujours le bon esprit. Alors, on n'est plus d'Isabelle, c'est fini.
La période des Isabelles, j'ai le regret de vous informer que c'est fini. Nous sommes dans la période des Jacqueline.
C'est bien aussi.
Voilà, c'est pas mal non plus. Donc, pour l'instant, Jacqueline. Alors, maintenant, les garçons...
Il doit y avoir plein d'auditeurs qui savent absolument pas de quoi on parle, mais ça fait... Non, parce que pendant des années, M. Charousset est venu avec des jeunes monitrices qui s'appelaient Isabelle, toutes pour des raisons parfaitement qui relevaient du hasard, tout simplement.
Oui, mais néanmoins...
C'était les versions de Diane
Vienne. Non, c'est pas ça. C'est vrai que ça s'est fait comme ça. Mais il y a un peu de ça, quand même, mais plutôt côté Victoire. Alors, on a les dates, on a les prix, on a les âges...
On a des conditions pour les familles...
La
possibilité de faire des ristournes pour les gens qui envoient plusieurs enfants. Au deuxième enfant, on fait une ristourne de 10%.
Bon, à partir de combien d'enfants vous donnez de l'argent? C'est toujours la question que je pose.
Pas encore eu le cas, donc je suis désolé de ne pouvoir vous répondre ce soir. À votre prochaine émission, je vous le dirai.
Et moi, j'ai pas compris, et je suis un père de famille, c'est de temps ça que je comprends pas et que j'essaie de comprendre quand même, si votre prix était tout compris et incluait le voyage.
Non, il n'inclut pas le voyage. Je voulais pas faire peur aux auditeurs. Donc le voyage est en plus, la licence FFME est en plus, et l'adhésion familiale qui est de 34 euros par foyer compte pour toute la famille. Donc l'assurance FFME c'est 25 euros, le transport SNCF pour les moins de 12 ans c'est 46 euros, Et le prix SNCF pour les plus de 12 ans, c'est de 88 euros. Voilà, monsieur, je crois que j'ai répondu. Ouais,
mais ça dépend d'où ils viennent aussi.
Non, mais départ de Paris.
Ah, départ de Paris.
Non, nous, c'est toujours le départ.
Donc, en gros, il faut ajouter 100 euros.
Tout le monde à partir de Paris et tout le monde part de Paris, en principe.
Le gars qui habite Bagnères de Bigorre est obligé de remonter
non,
à Paris.
Non, on peut le prendre en route, mais en grande partie. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi, parce que c'est quand même la région parisienne qui fournit le plus gros lot de participants. Hein. Malheureusement, la province... nous avons nos stages intermédiaires. Ça m'amène à parler des stages intermédiaires. Lors des stages intermédiaires, on ne peut pas faire participer toute la France, malgré que nous soyons installés sur toute la France, parce que avec le décalage des vacances scolaires, bon, on peut satisfaire plusieurs régions, mais pas toutes les régions.
Ok. Bon, alors l'adresse et numéro de téléphone.
Les téléphones. Alors, je demande aux parents d'avoir la gentillesse de s'inscrire très rapidement maintenant. Nous avons encore des places disponibles. Mais dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, sous 48 heures serait souhaitable. Alors, à Paris, vous pouvez appeler le 01 39 82 01 37. C'est un téléléphone fax.
01 39 82 01 37.
En province, le 05 63 24 26 99, toujours téléphone fax.
Alors, 05 63 24 26 99.
26 99. Alors, j'ajoute également, puisque j'en ai le loisir, que pour l'équipement des enfants, vous pouvez contacter Jacqueline Chapelle au 01 39 60 61 53, en évitant les heures de repas si possible. Hein.
Comme toujours.
Voilà. Comme nous sommes agréés jeunesse et sport, là j'en profite encore, une précision, les gens qui bénéficient de bons CAF peuvent les utiliser, ainsi que les bons d'entreprise, etc. Donc, toutes les possibilités sont offertes.
Très bien. Merci beaucoup, M. Charousset.
C'est moi qui vous remercie.
Il faudra un jour que vous veniez nous raconter. C'est quand après? Parce que c'est bien de vous les présenter avant.
Oui, c'est promis.
Avec des enfants, les rescapés, pour nous raconter comment ça s'est passé.
C'est promis. Avec les moins handicapés d'entre eux, j'essaierai de revenir vous voir.
Merci beaucoup. Merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur. Infiniment.
Voilà. Si vous voulez laisser votre place à Jean Madiran, qui est en train de remplir son bulletin d'inscription, vous pouvez pas, Jean. Ça s'arrête à quel âge? 18
ans 18 ans, oui.
Voilà, donc vous ne pouvez plus depuis...
mais on peut accueillir des adultes au niveau de l'encadrement. Par contre, il n'y a absolument aucun obstacle.
Voilà, donc si vous voulez mettre quelle couleur le short?
C'est quand même très ouvert. Bleu.
Short bleu et des lacets rouges.
Chemise bleue, short bleu, knickers bleu et...
Voilà. Et boucle dorée, pas boucle d'oreille, contrairement à ce que j'avais compris. Merci beaucoup, à bientôt.
C'est
Aventure et Tradition, je rappelle le numéro de téléphone le plus important, 01 39 82 01 37. Et nous passons immédiatement, sans désemparer, au clan de la presse, en présence, comme d'habitude, de Camille Gallic de Rivarol.
Bonsoir.
Bonsoir Camille, de Jean Madiran de présent.
Bonsoir.
De Emmanuel Ratier de Faits et Documents. Je vous dois des excuses, Emmanuel, parce que quand j'ai annoncé les titres qui seraient présents à la journée du Libre Journal le 15 juin, 49 rue Blanche, la plume m'a manqué et j'ai oublié Faits et Documents. Je me réponds en excuses devant vous.
Nous sommes fâchés, Serge, je m'en vais. Bonsoir, messieurs les censeurs.
Je me rattrape la semaine prochaine. Monsieur Jean-Claude Varane de National Hebdo.
Bonsoir.
Bonsoir. Mais il y a un micro, ou alors.
Bonsoir.
Et puis Patrick Goffman du Libre Journal. Alors, vous allez dire, ça change tout le temps. Oui, ça change tout le temps. Avant, je présentais l'émission. Puis la dernière fois, j'ai demandé à Patrick de présenter. D'arbitrer l'émission.
Je n'ai pas donné satisfaction. Beaucoup de messages de protestation.
Beaucoup de protestations. Donc, quand je ne peux pas le renvoyer d'un seul coup, je suis obligé de lui laisser encore une chance. La vérité, c'est qu'il parle mieux du journal que moi. Et donc, comme c'est quand même l'objectif, c'est quand même de parler du journal. Je l'ai remis à sa place de secrétaire de la rédaction du Libre Journal, et moi je garde ma place de directeur de cette émission. Et voilà, comme ça, tout le monde s'en félicite, à commencer par moi.
Surtout pour les...
Et toi, tu t'en félicites, Patrick ?
Ah oui, très comment bien.
Mais surtout pour les 10 ans, quand même.
Pour les 10
Parce
ans.
Parce que ça se fête.
Ouais, comment ne pas se féliciter du fait que quelqu'un soit remis à sa place ?
Je m'attendais à quelque chose de genre. Bon, ça, c'est fait.
D'autant qu'on est deux.
Vous m'avez tendu la perche.
Oui. Bien, alors, les sujets ne manquent pas. Les grèves, le voyage à Rome, pas le voyage à Sparte, mais le voyage à Rome, ce qui est un bon début, l'affaire Baudis, les tremblements de terre. Alors, Camille, vous voulez peut-être, selon notre tradition galante, ouvrir le débat avec un de ces sujets. Lequel proposez-vous de lancer ?
Oh, tous sauf Rome, que je...
Qui est l'unique objet de votre sentiment? Oui.
Non, je trouve que le séisme en Algérie, enfin, hélas, il y a des séismes un petit peu partout. Je ne vois pas en quoi je pleurerais davantage pour les sinistrés de Boumerdès, dont je rappelle, puisque personne ne le dit, que c'est l'ancien Rocher Noir. Qui était la cité administrative où se réfugiaient régulièrement les hauts fonctionnaires de Gaulle quand ça chauffait un petit peu trop du côté des Français d'Algérie.
Le tremblement de terre a quand même 40 ans de retard.
Voilà, tout à fait. Mais ce qu'il y a c'est une chose extraordinaire, c'est que c'était simplement une cité administrative où il devait y avoir à peu près 5000 personnes hors les fonctionnaires. Et quand on dit maintenant 400 000 personnes, c'est terrifiant. Ça me fait penser quand les Anglais sont arrivés dans la Somme, leur premier recensement, ils ont trouvé 300 000 âmes et il y a maintenant 60 millions d'habitants dans la Somme.
Ça va vite, quand même.
Ça va.
C'est aussi au taxi écossais qui tombe dans le Loch et qui fait 17 morts.
Oui, mais c'est pas pour la même chose. Bon, alors, le tremblement de terre vous inspire quelle réaction?
Enfin, moi, je me sens tout aussi solidaire des Turcs qui ont été récemment victimes d'un tremblement de terre, ou des Japonais de Kobe, ou et je pense toujours aux Macédoniens à Skopje, qui ont longtemps, très longtemps attendu Je ne vois pas pourquoi cette mobilisation des radios France Info organise
avec FR3,
C'est en raison du public qui se trouve dans l'Hexagone.
C'est le public, c'est ce que j'allais dire, c'est parce que ça montre combien la France algérienne est allée très vite.
Mais ça montre aussi que... imaginons le contraire. Imaginons qu'il y ait un tremblement de terre de la même importance dans qui saccage une ville en France.
Oui, Nice.
Par exemple, Nice. Bon, on n'imagine pas une seule seconde que l'Algérie nous envoie des bulldozers, des chiens d'avalanche pour retrouver les corps.
Hôpital
de campagne. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à poser sur la situation des anciennes colonies 40 ans après? Parce que le fait est que quand on a laissé l'Algérie il y a 40 ans, elle était dans la situation, dans la même situation de progrès technique que la France à cette époque-là.
Et de la même manière, pourquoi avons-nous un institut du monde arabe à Paris, et où est-ce que vous voyez un institut du monde occidental dans le monde arabe ?
C'est un peu le même problème, mais en l'occurrence, l'affaire de Boumerdès montre que...
Il y a
les gens qui ont voulu l'indépendance parce que soi-disant on avait exploité leur pays jusqu'à la corde, on les avait volés, spoliés, dépouillés, on leur a pris leur gaz, leur pétrole, leur main-d'œuvre,
leurs figues,
et 40 ans plus tard, ils n'ont fait aucun progrès, mais ils ont régressé. Si bien qu'ils ont encore besoin de l'ex-puissance coloniale pour faire face à une tragédie.
Et on apprend à cette occasion que tout le littoral algérien est urbanisé, et donc il n'y a plus de culture dans la Mitidja.
Qui était un grenier.
Non, mais ça nous fait réfléchir au mensonge d'une décolonisation prématurée, et non seulement prématurée, mais d'une décolonisation qui a été criminelle. C'est le principe même de... Nous vivons dans... L'un des principaux mensonges sur lesquels nous vivons, c'est la diffamation du bienfait de la colonisation. À travers tout tableau peut avoir ses ombres, naturellement, sans il n'aurait pas ses lumières, mais c'est la vérification.
En tout cas, du moment qu'on avait accepté le fardeau de l'homme blanc, il ne fallait pas le déposer trop vite.
Si vite et si mal, voilà. En plus.
Enfin, on peut se réjouir quand même de la proposition Emmanuel. De loi là, qui va être déposée. Je crois qu'elle ne l'est pas encore. C'est Leonetti et Douste Blasi qui ont trouvé quand même entre 100 et 120 députés. Ils vont déposer une loi, pour une fois, il n'y a qu'un article, qui est destiné à saluer l'œuvre de la colonisation française en Algérie, pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et je trouve que ce n'est pas si mal, qu'il y ait quand même, bon, même des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord sur tout, qu'il y ait quand même le courage vis-à-vis de, face à, notamment aux campagnes incessantes et continuelles du Parti communiste depuis un peu plus de 40 ans maintenant, qui enfin se décide à...
Et aux mensonges et aux provocations.
Patrick Goffin évoquait à l'instant l'Institut du monde arabe. Il faudrait peut-être faire un institut de l'Empire français. Ça me paraîtrait une bien meilleure idée. Ce serait d'abord plus...
Enfin, c'était le ministère efficace.
C'était
le musée des colonies qui m'a pas fermé.
Il y a une autre réflexion quand même qui m'a été inspirée par cette situation. On a vu les immeubles de Boumerdès s'écraser comme des Boumerdès, on peut dire, vraiment. Et on nous dit, enfin, il suffit de lire un bouquin ou un livre ou un article sur l'immigration pour apprendre que on doit beaucoup de reconnaissance aux immigrés du Maghreb algérien parce que c'est eux qui ont construit la France des années glorieuses, la France des Trente Glorieuses. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Maghrébins dans les entreprises de construction, de bâtiments publics et autres, enfin les entreprises du bâtiment, et on nous dit c'est eux qui ont construit, hein. S'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas cette floraison de beaux immeubles en France. Moi, je veux bien, mais d'abord, je suis un petit peu inquiet. Et puis, d'autre part, je voudrais qu'on m'explique comment ces gens qui ont construit tous les beaux immeubles de France n'ont pas été foutus de construire des maisons qui tiennent debout en Algérie.
Mais à quel poste, voilà.
Ah oui, peut-être, oui.
Il faut aussi savoir
les architectes
que quand même...
n'étaient peut-être pas venus du Maghreb.
Cette région est sujettie à des séismes de tout moment, de tout temps, puisque dans cette même région, aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, il y a encore eu un séisme. Alors, il faudrait peut-être effectivement que ce gouvernement algérien se pose la question des constructions nouvelles.
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire, il faudrait peut-être qu'il s'en aille. Non, il faut absolument qu'il reste là-bas.
C'est pas notre problème, mais je crois qu'il y a un problème de construction en cas de séisme qui doit être prévu dans les avenirs. Je crois qu'en Grèce, ça a été fait, ça a été mis en place.
Jean-Claude, les immeubles en Algérie après la catastrophe, après le tremblement de terre d'Orléansville qui avait fait 5000 morts, les immeubles ont été construits selon les normes antisismiques et ils ont résisté.
Et le maire d'Alger vient de déclarer il y a deux jours sur RFI qu'il existait des normes antisismiques en Algérie, mais a-t-il ajouté, pour ce qui est de leur application, il a laissé flotter trois points de suspension. Et c'était le maire d'Alger qui parlait.
Ce qui est plutôt rassurant, cela dit, que cette fois-ci, il était âgé, parce que quand il y a eu des inondations, si vous permettez, Camille, je voudrais rappeler le détail, quand il y a eu les inondations, l'Oued qui a débordé, on a cherché partout le maire d'Alger, on n'a pas pu le trouver, pour cause, il était en France, il était venu en France pour toucher son RMI. Donc là, exceptionnellement, à l'occasion du tremblement de terre, il était encore sur place.
Entre deux RMI.
Il faut aussi signaler que pendant cette période, je crois que c'est hier, il y a eu encore des assassinats de 6 ou 7 personnes à 150 km d'Alger.
Tu parles des pillards qui ont été abattus. Parce que il y a aussi un aspect quand même qui est intéressant. Moi, je veux bien. On sait très bien que les races n'existent pas, donc on ne va pas faire un discours racialiste ou ethno-différentialiste. Mais... Je constate une chose, c'est qu'il y a un tremblement de terre gigantesque sur Boumerdès et qu'une semaine plus tard, on est les victimes de ces tremblements de terre lynchent les pillards qui sont en train de fouiller les cadavres pour voler leurs babouches. Ce qui est quand même, je pense pas qu'on verrait ça en Suède, par exemple. Il ne doit pas y avoir beaucoup de tremblements de terre en Suède non plus, faut dire. Mais accessoirement, on voit qu'il y a un tremblement de terre équivalent au Japon. Et que ça provoque rien. Il y a eu 300 blessés, je crois, parce que les normes antisismiques sont respectées, parce que les constructions sont faites par des gens qui savent construire des maisons, parce qu'il y a une discipline de vie, il y a une attitude en face de l'existence qui est différente, parce qu'il y a une conception de la société qui est différente, et tout, et voilà, on voit le résultat. Donc ça mériterait qu'on réfléchisse. Nous, Français, je crois, on devrait réfléchir à ça, ou les Français devraient réfléchir plus à ça, dans la mesure où, dans l'Hexagone, il commence à y avoir de plus en plus. Il y a beaucoup plus de Maghrébins que de Japonais, il faut dire. Hein? Donc, si un jour il y a un drame, moi je préférerais qu'il y ait plus de Japonais. Ça se passerait mieux.
Si je me souviens bien, Serge, après le tremblement de terre de Kobe au Japon en 1995, il n'y a pas eu de pillage.
Non, je crois pas.
Ni de collecte en France, d'ailleurs.
Ni de collecte en France.
Voilà, bon, on a dit tout le mal qu'on pouvait dire sur cette affaire. À moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, non?
Le téléphone arabe ne fonctionnait plus, vous savez.
Non, mais ça, c'est à cause des câbles qui ont été coupés. Câbles français, monsieur.
Un dernier mot pour monsieur Bouteflika, quand même, dont il s'avère qu'il ne peut plus faire un pas dans Alger sans l'escorte de Jacques Chirac, sans se faire lapider.
Oui, c'est vrai. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les Algériens aujourd'hui se plaignent d'être victimes depuis des années du gang, de la mafia militaro
FLNiste,
hein, c'est bien ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est ce que j'ai dit l'autre jour à Monsieur Favarel. Je comprends pas pourquoi ces jeunes gens, Monsieur Favarel, qui étaient venus pour parler de l'Algérie, et je comprends pas bien comment les héritiers de ceux qui ont chassé les Français par une brillante victoire sur le terrain, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ils ont vaincu l'impérialisme colonialiste, sont pas capables de foutre à la porte la poignée de gangsters qui tient le pays. C'est mystérieux, ça.
Ils sont tous installés en France.
Oui.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent pas les faire partir, ils sont déjà plus là.
Et Serge, je crains que ceux qui sont tellement opposés actuellement à Bouteflika ne viennent en France aussi.
Bah, ouais, il y a beaucoup de places libres en France, je vois. Vous savez, ça fera des Français. D'abord, la démographie est en baisse, et donc ça fera des Français.
Des retraites.
Nous paierons nos retraites.
Voilà, c'est ça. Bien, deuxième sujet d'actualité, les grèves peut-être, non?
Oui, je crois que les grèves, c'est quand même très important. Mais il y a un sujet sur lequel nous pourrions peut-être discuter, c'est que tous ces événements qui se passent à l'heure actuelle, ces mouvements sociaux, qui ne sont pas tellement coordonnés. La question qu'il faudrait se poser, c'est qui manipule qui? Pourquoi? Est-ce que c'est une façon de faire revenir les socialistes au pouvoir, ou tout au moins revenir dans le monde politique et avoir une grande importance? Ou est-ce que c'est le gouvernement qui laisse faire? Ou est-ce que c'est une possibilité de faire revenir sur l'échelon politique les syndicats qui avaient un petit peu disparu? Lorsque on voit que le président de la CGT a été applaudi au Parti Socialiste plus que Hollande, on peut se poser des questions. Qui fait quoi? Pourquoi ces mouvements de grève qui, dans le fond, sont un petit peu incontrôlés? Est-ce qu'il y a une manipulation derrière? Est-ce que, j'avoue que nous, à National Hebdo, nous sommes posé la question.
Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à Jean-Claude Varane de National Hebdo? Emmanuel Ratier, de Faits et Documents, vous avez...
Alors, j'ai un peu de mal à parler, parce que quand vous parliez de grève, je pensais plutôt à l'endroit où viennent s'échouer les drakkars le long de la mer.
Ah oui, on a abandonné le sujet, finalement, on voulait en parler, mais on laissait tomber, parce que l'immigration, bon, ça suffit.
Moi, ce que je pense, c'est que ces grèves sont pas du tout incontrôlées, à la différence des grèves de décembre 95, parce qu'à l'époque, il y avait des collectifs qui échappaient aux syndicats. Et donc là, en plus, c'était assez populaire. Tous les Français ont marché à pied, ça leur plaisait. Enfin, en tout cas, pendant un certain temps. Et en ce moment, finalement, bon, il y a eu quelques problèmes à Paris de transport, mais en dehors des transports, bon, et puis, c'est sûr, bon, les parents qui, de temps en temps, sont obligés de garder leurs enfants. Mais déjà, quand on enlève les enfants des fonctionnaires, ça fait beaucoup moins. finalement, pour le moment, c'est pas vraiment gênant, surtout que ça s'est passé au mois de mai. Et ce qui est formidable, c'est de penser que la France peut encore s'offrir ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez cette semaine, on a des grèves lundi et mardi, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Pourquoi ? C'est extrêmement simple, parce que...
Mercredi, il n'y a pas d'école.
Mercredi, pas d'école.
Jeudi, férié.
Jeudi, férié. Vendredi, le pont. Et donc, ils font les grèves la semaine prochaine.
Mais voilà. D'ailleurs, il y aurait une idée peut-être à exploiter, ce serait de dire que, par décision du Parlement, on pourrait faire une loi en disant il n'est pas du tout question de remettre en cause le droit de grève.
On groupe les grèves au mois de mai.
Se regrouperont au mois de mai. Alors, on pourra faire grève, tout le monde pourra faire grève autant qu'il veut, du 1er au 31 mai. Il y a 31 jours, mais...
Je peux peut-être dire un mot en ma qualité de... Pardon, Emmanuel. Non, ma qualité d'ex-trotskiste, puisque ça fait à peine 25 ans que je me suis séparé du trotskisme et qu'on m'en félicite.
Juif trotskiste, il faut que voilà. Ajouter.
Oui, donc j'expliquerai une autre fois pourquoi on parlait pas yiddish au bureau politique de la Ligue communiste. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a plus d'un mois de ça, j'ai entendu le camarade Alain Kribine, encore un qui ne connaît pas le yiddish, mais qui était capable quand même de parler ce langage. Nous allons, disait-il, dans les micros de France Inter Radio d'État, vers un nouveau mai 68. Et il a développé ce thème qui a été repris je ne sais combien de fois par des journalistes anonymes sur cette radio d'État et sur plusieurs autres. J'observais dans la rue une floraison d'affiches de la même Ligue communiste révolutionnaire et d'autres groupes qui avançaient des mots d'ordre syndicaux, on dirait trade unionistes, avec mépris au bureau politique de la Ligue et d'autres groupes, et qui, bref, en un mot, s'efforçaient de mettre de l'huile sur le feu. Mais ce qui me frappe, surtout quand je me souviens du nombre de discussions que j'ai eues dans des réunions avec des gens du FN et ailleurs sur le complotisme, sur l'idée qu'en 68, par exemple, c'est Moscou qui aurait appuyé sur un bouton et que maintenant encore, on appuierait sur un bouton pour déclencher des grèves générales. Ce qui me frappe, c'est que ça ne marche pas. Oui, certainement, il y a un complot, il y a une volonté affichée, c'est le cas de le dire, sous la forme d'affiches de la Ligue, des socialistes qui veulent se rendre une certaine crédibilité sociale en acclamant le président de la CGT, le secrétaire général de la CGT, mais ça ne marche pas. Si on regarde dans le détail, on nous annonçait une poursuite de la grève des transports, elle n'a pas eu lieu. Les syndicats d'enseignants étaient tout fiers d'annoncer 30% de grévistes. Chiffre gonflé manifestement, ils en avaient peut-être 10 ou 15. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de mai 68, il n'y a même pas de décembre 95. Oui, il y a un complot. Oui, il est en train d'échouer, de sombrer dans le ridicule.
Mais c'est parce qu'il y a une entente. Enfin, je peux évidemment me tromper, mais il est évident qu'il y a une entente entre un certain nombre de syndicats, parce que je pense que Force ouvrière n'est pas dans l'affaire, pour différentes raisons, parce que Force ouvrière n'est plus depuis une douzaine d'années l'interlocuteur privilégié du patronat. Mais il y a une entente notamment entre la CFDT, en partie la CGT, avec le gouvernement actuel. Tous ces gens-là se retrouvent dans des clubs, comme le siècle, et il y a eu une négociation qui a été menée par Anne-Marie Hydrac avec les gens de la RATP et les gens de la SNCF, dans laquelle elle leur a garanti, c'est clair, qu'il n'y aura pas de remise en cause de leur statut au moins avant 3 ans. Bon, à partir de ce moment-là, ils défendent plus, ils parlent plus de mots d'ordre général de solidarité avec les autres. Bon, et ce qui va se produire là, c'est qu'à mon avis, ils vont abandonner la décentralisation et ils vont faire passer une légère augmentation des retraites. Mais le problème des retraites est un faux problème, puisque de toute façon, ça coûtera encore plus cher. Parce qu'on dit on va faire cotiser les fonctionnaires plus longtemps, mais si on les fait cotiser plus longtemps, ce sont les contribuables qui vont payer ces cotisations.
Anne Merlin-Chagelas, dans le Libre Journal la semaine dernière, enfin les 4 dernières, a démontré, a expliqué en tout cas qu'un fonctionnaire à la retraite coûte beaucoup plus cher qu'un fonctionnaire au travail. Donc ça veut dire aux fonctionnaires prenez votre retraite plus tard un fonctionnaire au travail coûte beaucoup plus cher qu'un fonctionnaire à la retraite, tout simplement parce qu'il faut ajouter les frais de poste. C'est-à-dire que un retraité, bon, il est chez lui, il coûte rien, il coûte ni électricité, ni espace, ni bureau, ni rien. Tandis qu'un fonctionnaire qui est à son bureau, je n'ai pas osé dire, oui, en faction, c'est ça, je ne dirais pas au travail, mais coûte beaucoup d'argent. Donc l'explication, à mon avis, l'explication de ce qu'on voit en ce moment, elle réside dans le fait que
des autorités qui n'ont rien à voir avec les autorités nationales ont décrété qu'il fallait modifier le régime des retraites.
C'est le plan de Bruxelles.
C'est le plan de Bruxelles. Et pour faire avaler la pilule, on a fabriqué le plan de retraite et on l'a enrobé avec une espèce de sucre, plus exactement de sel, qui s'appelle la décentralisation. Et on va retirer, au moment de faire avaler ça, le sel aux gens en leur disant, tenez, vous pouvez avaler le plan de retraite, puisque sur la décentralisation, on cède un peu, et donc vous acceptez ça. Et les gens vont dire, on a gagné. Et naturellement, les syndicats pourront frimer auprès de leurs adhérents et de leurs cotisants en disant, voyez, on a imposé nos volontés au gouvernement. En réalité, ils n'auront rien imposé du tout, et ils sont complices du pouvoir. En tout cas, ils sont de connivence avec le pouvoir pour faire passer la véritable réforme qui est celle qui est voulue par les mondialistes de Bruxelles.
Il faudra qu'ils se dépêchent de frimer, puisque rappelons qu'à eux tous, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ces syndicats, ils ne représentent que 8% des salariés.
Oui, mais ça, c'est
retraités compris.
C'est ce qu'il faut absolument cacher à tout prix. D'où l'agitation médiatique autour des grèves, autour des manifestations et tout. Parce qu'il faut absolument faire croire aux Français que les syndicats existent, alors que dans la réalité, ils n'ont aucune existence. Mais comme il faut faire croire que M. Raffarin prend des décisions, alors qu'en fait, Raffarin, c'est un gauleiter du système mondialiste qui se contente d'appliquer les décisions qui sont prises ailleurs.
Et qui a vendu 1800 exemplaires de son brillant essai politique. Là. Il aurait dû faire comme Ferré et l'envoyer gratuitement à tout le monde.
Ferry.
Enfin, oui. Je trouve que tout de même, les grèves tombent, l'agitation médiatique autour des grèves tombe à pic pour faire un peu oublier la question de l'euro actuellement avec la parité, maintenant c'est très loin, on est très au-dessus de la parité avec le dollar et les blocages que signifie cet euro trop fort ou en tout cas surévalué.
Moi, ce que je constate, c'est qu'avec l'euro, je m'empresse de dire que je n'y comprends rien, mais je constate quelque chose, c'est que quoi qu'il arrive au dollar, on nous explique que c'est mauvais pour l'euro. Alors, parce qu'avant, quand le dollar était plus fort, tout le monde disait « Oh là là, mais on a l'air de quoi avec notre euro à 0,80 $ ?» Et maintenant, on nous dit « Oh, dis-donc, c'est très emmerdant parce que l'euro est à 1,20 $. » Donc, je voudrais qu'on m'explique quand l'euro est bien. J'ai l'impression que c'est pas bien du tout, jamais.
Oui, exactement. Mais c'est la théorie de la monnaie pivot de François Perrou. Alors, N-1 monnaie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une monnaie mondiale qui actuellement est le dollar, que le dollar soit haut ou soit faible, ça n'influe absolument pas sur le dollar, ça influe sur les autres monnaies.
Ouais,
ça a une conséquence, puisque les autres monnaies, les autres économies se définissent par rapport à une monnaie qui, elle, est la règle. Donc que cette monnaie soit haute ou soit baisse, pour être très clair, le déficit des États-Unis ou les retraites des Américains, pour être encore plus précis avec les fonds de retraite, est payé par l'ensemble du reste du monde. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme américain, c'est simple. Hein.
Donc il faudrait revenir à une économie de troc.
Ou avoir un euro impérial.
Ah. Trois choses. Ou les talents or.
Les talents rouges,
mais c'est
talons
or. La théorie du général de Gaulle.
Ça y est, National Hebdo qui chante le lot du général de Gaulle.
Non, je cite tout simplement.
Oui, mais les talons or existaient avant le général de Gaulle.
C'était Jean-Claude Varane de National
Hebdo. Merci de me faire remarquer.
Bon, on va changer de sujet si vous voulez. On a un grand reporter.
Si on peut parler des auditeurs avec le sujet.
Ah ben oui, alors après je donnerai la parole au grand reporter. Donnons la parole aux auditeurs.
Mais pourquoi aux grands reporters ils ont parlé, les grands reporters?
Non, il y a un grand reporter. Un grand reporter, c'est un monsieur qui fait des grands reportages, ou une dame.
Depuis une dizaine de jours, dans certaines communes, les PTT font déjà les grèves perlées. À propos des grèves, vous êtes vraiment du tremblement de terre. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Ne pensez-vous pas que s'il y avait eu un tremblement de terre en France, les Algériens auraient envoyé de l'argent pour les Français?
Je pense que s'il y en avait en Israël, peut-être.
Je pense qu'ils auraient envoyé de l'argent.
Je suggère
à leur cousin.
Je suggère.
Cousine.
Je suggérerais, nous dit cette auditrice, que les garçons de banlieue, qui n'ont rien à faire d'autre que de brûler nos voitures, se rendent utiles à leur pays en allant le reconstruire, leur pays, l'Algérie, naturellement.
Ça suppose que les jeunes des banlieues qui brûlent les voitures ont quoi que ce soit à voir avec l'Algérie. Il faudra encore le prouver. C'est facile de le dire, mais il faudra le prouver.
Hein? Ça se passe de nuit.
Et ça, c'est du travail forcé.
Oui, en plus. Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec cette réflexion qui me paraît insidieuse. Je me souviens, une fois, il y avait eu une arrestation massive, et j'ai vu la quinzaine de jeunes qui avaient été arrêtés à la suite d'émeutes, vous avez brûlé. Il y en avait un qui n'était pas français, qui n'était pas du tout, qui était vraiment rien à voir avec les tremblements de terre, ni rien. Je me souviens très très bien. Donc, il faut pas lancer d'accusations. C'est trop facile, ça. En plus, ils sont français.
Laissez-la parler.
J'attends les commentaires, moi. C'est pas moi, d'ailleurs, qui parle, c'est les auditeurs. J'ai entendu sur la première chaîne, le lendemain du tremblement de terre, un journaliste dire que les seuls immeubles qui avaient résisté étaient, eux, construits pendant la présence française.
C'est vous qui étiez à la télé, Camille?
Ou alors j'ai perdu la tête, je ne m'en souviens plus.
Parce que c'est ce que Camille a dit tout à l'heure, et je ne savais pas qu'elle faisait des heures sup à la téloge.
Cessez donc de ricaner sur les malheurs de Bouteflika, car enfin, ces malheureux désormais sans abri, où allons-nous les reloger? Place Franciliste, peut-être. Franciliste, peut-être.
S'il vient de prendre un abonnement, pas de problème.
Solution proposée anti-séisme, peu onéreuse, l'attente. Il y a 30
ans. Ça peut s'écrire de différentes façons.
Il y a 30 ans ou plus, il y avait des tomates en provenance d'Algérie. Elles ont disparu.
Bah, demandez à Bouteflika, tiens.
Encore la preuve. Que Victoria demande à M. de Bekelj de parler un peu moins vite. J'ai 100 ans, dit-elle. Et j'ai un peu de mal à suivre.
Dit-elle, comment savez-vous que c'est une dame?
Parce que c'est écrit sur le papier. Il y a écrit.
Alors madame, félicitations d'avoir la gentillesse de nous écouter.
On en a beaucoup des centenaires. Jean Ferret a expliqué ça lundi. Il a dit à une auditrice que ses 104 ans ne l'impressionnaient nullement, oui. Parce qu'on en avait des dizaines de centenaires.
Bon, enfin, c'est quand même gentil de nous écouter, même à 100 ans, même à 50 ans d'ailleurs. Mais je voudrais raconter une petite anecdote. On a reçu une très jolie lettre d'une dame de 97 ans qui a repris son abonnement au Libre Journal en nous disant qu'elle avait toujours autant de plaisir à le lire et parce que ça l'a réconforté et ça lui donnait du courage pour affronter l'existence. Ça fait plaisir quand même. Et l'écriture était d'une juvénilité, hein.
D'une fermeté, oui, j'ai vu la lettre, c'était étonnant. Oui.
Donc voilà, moi je voudrais bien, alors ça entend pas tout de suite, mais dans 45 ans.
Les syndicats ne seraient-ils pas un peu manipulés par les billets verts, comme en 1968, pour mettre à mal le pouvoir français?
C'est tout pour le moment. Ça, c'est l'argent de Washington, c'est le...
Vous savez comment Force Ouvrière a été... Oui, la FLCIA et Force Ouvrière. On ne va pas raconter cette histoire une millième fois aujourd'hui.
Alors donc, voilà, ça c'était les messages sur les sujets que nous avons traités jusqu'à présent. Voilà. Rien sur les grèves pour l'instant. On en parlera tout à l'heure, le temps que les messages arrivent. Je vais... À la connaissance du clan de la presse, les pompiers et autres sauveteurs français détachés en Algérie pour sauver les vies humaines ont-ils été, en guise d'encouragement, copieusement caillassés par les racailles, alors là, avant leur départ pour l'Algérie, comme ces voyous ont l'habitude de le faire sur nos valeureux soldats du feu qui risquent leur vie pour sauver les leurs?
Il y a une dame qui vous entend pas bien en ce moment. Non,
j'essaie de lire en même temps. Je lis avec prudence parce que il y a des auditeurs qui glissent des choses qu'on ne peut pas dire au micro dans les messages. Quand on arrive dessus, ah, trop tard, c'est dit. Non, ce qu'il demande, c'est effectivement cet auditeur, c'est si les pompiers et autres ont été caillassés comme dans les banlieues.
Me paraît tout à fait pertinente.
Mais elle rejoint la proposition de l'auditeur qui disait, mais pourquoi on n'envoie pas ces jeunes aidés
dans leur pays où
c'est vrai que tous ces jeunes des banlieues qui n'ont rien à faire...
Je croyais que vous les envoyez caillasser les pompiers puisque ça manque là-bas.
Je voudrais quand même signaler, j'ai été qu'on avait pour acheminer l'aide, on a été obligé de louer des Antonov russes et ukrainiens.
Moi, les avions russes et ukrainiens, en ce moment, je ne suis pas très pour. Hein. Ils ont quand même une tendance à se poser
selon
de manière sportive.
D'ailleurs, voilà ce que j'avais proposé, moi, c'était de libérer l'immigration en France, de dire aux gens, voilà, vous pouvez immigrer comme vous voulez en France, à condition de venir dans des avions soviétiques. C'est pas mauvais comme idée. Ça permettrait de financer un peu le marché aérien des pays de l'Est, ouais. qui est mal portant. Puis ça aura un effet naturellement réducteur sur l'immigration.
Avec un demi-plein d'essence.
À propos des grèves, Serge, moi j'ai une question personnelle à vous poser. Qu'en est-il du droit de grève de l'EDF-GDF ? Parce qu'ils ne sont plus jamais dans les coups maintenant.
Je crois qu'il y a des dispositions qui ont été prises, des accords qui ont été passés avec les organisations syndicales pour que les grèves n'entraînent pas de coupure de courant. Il me semble que j'ai entendu ça.
Si on a pu le faire.
Mais c'est pas ça le problème, c'est
les régimes particuliers.
C'est entièrement
automatisé. Il y a des délestages européens parce que l'électricité fonctionne plus au niveau français, fonctionne au niveau européen.
On passe en Espagne.
Il est totalement impossible d'arrêter les centrales nucléaires, notamment. Parce que s'il y a une surproduction, etc. Bon, donc pratiquement il n'y a pas d'intervention humaine, comme par exemple s'il y a une grève.
C'est pourquoi il y a tant de monde ?
Non, mais c'est comme s'il y avait une grève, par exemple, dans la téléphonie, on pourrait continuer à téléphoner.
Ouais. C'est aussi. Mais pourquoi il y a tant d'employés EDF-GDF alors s'ils servent à rien ?
Il y avait un monsieur qui était secrétaire de la CGT, qui a été mis à la tête du comité d'entreprise.
Marcel
EDF.
Paul ?
Non, qui s'appelle Simon Laroche, qui était polytechnicien. Et alors le malheureux a demandé une enquête en arrivant sur la manière dont les fonds du CCAS étaient utilisés. Alors ce qu'il faut savoir de l'EDF, EDF-GDF, c'est que c'est pas 1% de la masse salariale comme dans les autres entreprises, c'est 1% du chiffre d'affaires. Bon. Et alors le malheureux a découvert qu'il y avait des centaines de salariés qui théoriquement, je crois qu'ils sont 4400 d'EDF, en fait qui étaient détachés auprès du Parti communiste dans les sections locales. Et à la suite de quoi il a été viré. Ça s'est produit il y a 15 jours.
Mais sur le droit de grève, je crois que le droit de grève n'a pas de base légale. Je veux dire par là que c'est un droit constitutionnel qui se formule en disant que le droit de grève s'exerce dans le cadre fixé par la loi. Mais la loi n'a jamais été prise, parce que dès qu'on parle d'un morceau de loi, fût-ce sous forme de service minimum, etc., il y a une insurrection contre l'atteinte portée au droit de grève. Si bien que le droit de grève est un droit illimité, et il a ouvert la voie à un système qui s'est appliqué aussi pour ce qui est devenu le droit à l'avortement, d'ailleurs, de la même manière. Un droit de l'homme sans Dieu, c'est un droit illimité, c'est conçu comme ça.
Et un auditeur nous fait remarquer que l'architecte qui a construit les logements HLM en Algérie s'appelait
Fernand Pouillon.
Ah. Oui. Mais c'est probablement ceux-là qui ne se sont pas effondrés.
Très bon architecte, même s'il était un peu... Mais il a beaucoup construit après aussi. Hein.
J'ai une bonne définition de l'euro. Monnaie créée par la Banque Centrale d'Allemagne pour achever de donner aux Français la sensation, déjà rendue très vive par l'immigration sauvage, de vivre à l'étranger.
Ah, c'est une bonne idée, oui, ça économise les départs en vacances. Bien, alors j'avais dit que je donnerais la parole au grand reporter. Jean Madiran était à Rome. La messe à Sainte-Marie-Majeure.
Oui.
Alors, je vous fais un mauvais coup parce que vous allez publier un article. Vous allez publier samedi
on peut l'annoncer.
Donc,
c'est que en présent de samedi, on aura tout ce que nous avons vu, ce que nous pensons, les photos, etc. Et probablement d'ailleurs que notre reportage samedi aura une suite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses dans la grosse presse française. Je voudrais dire que c'est pour le catholicisme un événement tout à fait important que dans une des basiliques pontificales, la Sainte Marie Majeure, pour la première fois depuis 34 ans environ, un cardinal chef de congrégation, avec l'approbation naturelle, il ne pouvait pas le faire sans, c'est pas un émeutier, mais en plus avec l'approbation explicite, qui a été explicite, de la bénédiction explicite du pape, célèbre la messe traditionnelle. Alors, l'interprétation qui a été donnée dans la presse italienne, parce que c'est l'interprétation facile, et dans la grosse presse française qui en a parlé le samedi matin, comme ça en parlant, ou le vendredi soir, pour être à peu près sûr qu'il n'y aurait pas trop de Français qui y aillent, n'est-ce pas ? L'interprétation qui a été donnée, c'est un geste du Saint-Siège envers les traditionnalistes. je pense à ce sujet, n'est-ce pas, que c'est tout à fait, c'est possible, je n'en sais rien, c'est tout à fait important, nous le souhaitons tous, je suppose, en tout cas très vivement, que nous souhaitons de voir Mgr Fellet la main dans la main avec, par exemple, Mgr Bricard, bien qu'il soit tellement constipé, je parle de Mgr Brincard, qui ne sera peut-être moins dans ce cas-là, nous souhaitons revoir revoir l'abbé Paul Oulagnier se battre librement dans les terres françaises à côté de très cher abbé Oulagnier, à côté du très révérend père abbé Don Gérard, et ainsi de suite. Mais je voudrais dire surtout que la question ecclésiastique qui se pose là, et on va dans le sens, forcément, c'est dans la nature des choses, mais ça peut durer 10 jours, 10 semaines ou 10 ans, c'est pas spécialement une affaire, c'est une affaire ecclésiastique, une affaire de droit canonique, d'entente, etc. Il est évident que la fraternité Saint-Pédis fondée par Mgr Lefebvre est appelée à trouver d'abord satisfaction pour ses demandes légitimes. Mais cette messe solennelle, je voudrais dire autre chose, c'est que deux autres choses, si vous permettez. La première, c'est que c'est un geste d'abord de justice envers le patrimoine de l'Église catholique romaine, le patrimoine qui est constitué par ce rite immémorial qui a droit de cité, dont le cardinal Castriano-Ios, qui l'a célébré, a dit qu'il n'était pas frappé d'extinction, qu'il avait droit de cité dans l'Église catholique. Seulement, ça fait 30 ans qu'on le nie. Ça fait 30 ans. Il y avait 5 cardinaux qui étaient venus assister. C'est beaucoup. C'était incroyable la veille. J'espère que ce sera beaucoup plus la prochaine
fois. Il y avait des Français parmi les cardinaux?
Non. 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 Parmi les Français, il y avait 2 pères abbés, dont Gérard, que j'ai déjà cité, et un père abbé dont le nom m'échappe, que je ne connais pas. Il y avait 2 pères abbés. Mais il n'y avait pas, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, il n'y avait certainement pas de cardinal français, il n'y avait pas d'évêque français non plus. Mais on sait très bien que les évêques français sont ceux qui, pour des raisons compréhensibles, ce qui ne veut pas dire légitimes, sont ceux parmi ceux qui résistent le plus au retour autorisé au rite romain, n'est-ce pas?
Mais là, ils résistent, pardon de vous interrompre, mais au prix d'un mensonge, parce qu'ils prétendent, ou ils laissent croire avec beaucoup d'insistance, que c'est une messe désormais interdite. Alors que là, on a la preuve du contraire.
Oui, mais alors là, c'est tout un problème, parce que... moi, j'ai toujours soutenu que l'interdiction n'était pas légitime, n'était pas licite, n'était pas valable, mais qu'elle existait. Elle a existé dans les discours de Paul VI, disant « Au nom de mon autorité suprême, je veux qu'on célèbre le rite nouveau qui est fait pour remplacer l'ancien. » Il y a des indications très nettes de Paul VI sur lesquelles il faut peut-être mieux diplomatiquement passer l'étouffoir aujourd'hui. Bon.
Est-ce que vous permettez, Jean Madian, de me faire l'interprète de nos milliers d'auditeurs qui ne rentrent pas de Rome comme vous, qui ne sont pas aussi versés que Serge de Becquet, dans ces matières, parce que moi-même, personnellement, je m'y intéresse pas très près, je m'y intéresse et j'ai du mal à comprendre. Je lis dans le Figaro donc, que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis se réjouit de cette messe et espère que ce passera encourageant encourageant sera suivi d'autres. Je lis par ailleurs dans le Libre Journal que Jean-Paul II, vous allez rectifier Serge si j'interprète mal, que Jean-Paul II a préconisé encourager l'usage du latin, qu'un cardinal vient de déclarer que la messe en quitte était dite, et il désignait clairement par là le rite conciliaire. Alors, je n'arrive plus à comprendre. J'ai l'impression qu'on joue sur tous les tableaux et qu'on peut pas suivre. C'est-à-dire que toutes les tendances conciliaires et traditionnelles sont encouragées. En même temps, j'ai lu enfin un dernier mot dans le Libre Journal en cours de 194 que cette messe traditionnelle avait été dite des milliers de fois depuis 30 ans à Rome. Alors, ça a été dit des milliers de fois ou c'est un événement?
Non, je ne peux pas vous faire toute l'histoire de la chose, et effectivement, je ne peux pas demander à tout le monde d'être aussi au fait de la question que peuvent l'être les lecteurs de présent.
mais la chose a été très clairement annoncée tout de suite dans présent, et il y a eu au moins 4 articles successifs qui ont expliqué en résumé ce qui s'est passé. Il y a eu une grande, un grand bouleversement dans l'Église quand, en novembre 1969, on a imposé un régime qui, en fait, était l'autorisation de célébrer la messe n'importe comment, pourvu que ça ne soit pas selon le rite traditionnel. C'est ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on pouvait célébrer n'importe comment et que ça ne soit pas selon le rite traditionnel. Aujourd'hui, il est évident, Mgr Fellet le sent très bien, il est évident que il y a un courant très différent à Rome sur ce sujet et sur d'autres semblables, mais il faut aussi comprendre qu'ils se sont mis dans une telle impasse. Durci pendant plus de 30 ans qu'il n'est peut-être pas très commode pour eux d'en sortir. Mais à côté du problème ecclésiastique, ce sur quoi on ne peut pas tout dire, la chose que je pourrais dire le plus utilement peut-être ce soir, c'est que cette messe a eu lieu parce qu'elle a été demandée par des laïcs. Parce qu'elle a été demandée par des laïcs de l'Una Voce italienne et d'un autre groupe, je crois, qui est un groupe dissident de l'Una Voce italienne, parce qu'il n'y a pas qu'en France que les groupes ont des dissidences, mais elle a été demandée par des laïcs. Et alors je pense que on peut aujourd'hui, sans faire de tort à personne, mais... saluer l'action des laïcs, de ceux à laquelle je n'ai pas été étranger, je crois, qui, publiquement, depuis novembre 1969 et sans discontinuer, ont combattu intellectuellement pour que soit reconnu et soit honoré et soit pratiqué comme il le mérite le rite traditionnel de l'Église latine. Et là, si vous le permettez, je voudrais évoquer ceux qui ont signé avec moi, si non seulement signé, mais souvent approuvé par un commentaire important, la lettre à Paul VI. Je ne parlerai pas des vivants, qui sont survivants, mais je voudrais rappeler que parmi ceux qui l'ont signé, il y avait des laïcs tels que Louis Salron, tels que Marcel de Corte, tels que Luce Connette, tels qu'Edith Bernard, tels que Henri Rambaud, pour ne parler que des morts. Il y a heureusement parmi un certain nombre de vivants et je pense que cela rappelle utilement à des fidèles catholiques qu'ils ont la possibilité dans l'Église, sans sortir de l'Église, en restant à leur place, mais sans en être chassés, ou sans tolérer d'en être chassés, dans de justes causes, le droit de faire entendre leur voix, de faire entendre leurs réclamations, et finalement que le programme qui est défendu depuis 40 ans, qui en résumé s'exprime par « Rendez-nous l'Écriture, le catéchisme et la messe », eh bien, commence à recevoir avec la messe de Sainte-Marie-Majeure, avec cet acte surtout de la messe, cet acte célébration, on ne peut plus dire, on le dira toujours, mais on ne peut plus dire de la même façon, on ne pourra plus dire de la même façon que la messe traditionnelle vous rend suspect, vous rend excommunié, vous rend marginal, la messe traditionnelle, l'Église de Rome. Là, en l'occurrence, c'est l'Église de Rome. Mater et magistra omnium ecclesiarum, ce qui se traduit par l'Église de Rome, mère et maîtresse de toutes les églises diocésaines, a rendu sa honneur à la messe traditionnelle et dans le rétablissement de ce qui doit être rétabli dans la vie quotidienne, je ne sais pas si ça ira plus ou moins vite, mais l'honneur est passé devant. Eh bien, c'est normal que l'honneur soit passé devant.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas un problème de l'Église du haut et de l'Église du bas ?
Non, ça c'est le problème de 1789 peut-être, mais là le problème c'est qu'il y a aussi une génération qui est ce qu'on appelle la génération du concile dans le clergé, et que cette génération qui est quelquefois très crispée sur des positions qui ont toujours été dénoncés comme n'étant pas conformes ou étant plus ou moins largement non conformes à la doctrine traditionnelle de l'Église, cette génération crispée sur ses positions, elle s'en va. Il y a actuellement les jeunes
le prêtres. Le problème des retraites.
Actuellement, il y a très peu de vocations, proportionnellement. Proportionnellement, parce que les familles qui résistent sont quand même effectivement une minorité. Mais proportionnellement, il y a beaucoup plus de vocations religieuses et sacerdotales dans les familles traditionnelles que dans les autres familles. La nouvelle messe, ce qui suit la nouvelle messe, c'est une désertification pour les vocations. Ça compte aussi. Et parmi les prêtres, les jeunes prêtres qui sont actuellement ordonnés dans la messe nouvelle, il y en a beaucoup qui découvrent ce qu'était la messe traditionnelle alors il n'est pas dit qu'on va imposer le latin à tout le monde, mais qui découvre la nécessité de sortir de cette espèce d'autocréation, d'autocréativité de n'importe quelle doctrine et de n'importe quelle liturgie qui a été et qui est encore un grand désordre dans l'Église.
Et comme le disait Patrick Goffin tout à l'heure, il y a effectivement l'écho dans le Libre Journal d'une initiative qui a été prise par le pape, qui vient de nommer un prélat polonaise, qui est un signe, à la tête d'une commission dont la charge est de restaurer l'usage du latin dans le rite et dans les séminaires.
Oui.
Et à Rome, on dit que cet évêque qui a été, ou ce cardinal qui a été désigné pour cette mission, dont le nom m'échappe, mais je pense qu'il échappe à beaucoup de monde parce qu'il doit y avoir 3 Z et 14 W, plus 2 Y pour que ça devienne imprononçable. Donc, il est dit qu'il parle mieux le latin que le polonais. Ce qui me paraît, moi, assez facile. Mais
Peut-être pour une oreille latine, il parle mieux le latin que le polonais.
Voilà. Alors, l'objectif est de restaurer le latin dans le rite et dans les séminaires. Et le problème qu'ils ont, qu'ils rencontrent maintenant, c'est bien un signe d'ailleurs de la situation générale du clergé, c'est qu'ils n'ont plus de. Plus personne n'est capable d'écrire. Enfin, plus personne. Il y a de moins en moins de fonctionnaires de l'Église, si j'ose dire, qui sont capables de traduire correctement les textes. Si bien que un des premiers travaux de cette commission a été de créer une commission de contrôle des traductions pour s'assurer que c'était pas n'importe quoi, car on a découvert que la méconnaissance générale du latin avait permis des contresens et des non-sens effrayants dans la traduction des textes.
Ah oui, mais tu parles. Lorsqu'en novembre 1969, l'épiscopat français impose du jour au lendemain que la messe nouvelle en français dans toutes les églises de France, c'est une traduction absolument improvisée. Improvisé, sans approbation du Saint-Siège, ni rien. Bien. Et deuxièmement, on sait maintenant, et on a dans les mémoires des uns, des autres, etc., que notamment Bugini, l'un des auteurs de la réforme liturgique, qui était amené, à qui on imposait plus ou moins, mais vous n'allez quand même pas mettre ça dans le latin, vous voyez, ça va pas. Disait, bon, ça va, on s'arrangera, on le mettra dans les traductions. Alors, c'est pas, toutes les traductions doivent être révisées. Toutes les traductions en langue spécialement en langue française doivent être révisées, mais je crois qu'on peut dire que c'est pas l'ignorance, il y a pu avoir de l'ignorance, il y a l'idéologie a beaucoup fait pour aggraver, si vous voulez, ce que la messe nouvelle en latin de Paul VI n'a jamais été traitée, de par les gens sérieux, de messe invalide. Elle a été traitée quand même de messe. Monseigneur Fellet vient encore de le répéter avec sérénité, mais juste raison. Messe qui est dangereuse pédagogiquement par tout ce qu'elle omet de préciser et toutes les ambiguïtés ou les omissions qu'elle comporte.
Il ne faut pas que les auditeurs pensent qu'on parle de questions abstraites, littéraires. Théorique, parce que je suis en train de penser, moi, à un terrible précédent, qui est celui du schisme du XVIe siècle en Russie, qui provenait exactement de la même façon d'une question de traduction, c'est-à-dire que le patriarche Tikhon a voulu réactualiser, et il a bel et bien réalisé une traduction enfin correcte des textes sacrés du grec au russe, qui avait été bâclé par des moines russes ignorants, et ça a déclenché donc le schisme des vieux croyants qui étaient attachés à ces textes-là, avec des conséquences
sociale dramatique pendant des siècles.
Oui, mais là, l'ignorance a bon dos. Hein.
Enfin, en l'occurrence, oui. À l'époque, peut-être pas, mais maintenant, oui.
Oui, oui, je veux dire, oui.
Merci, Jean Madiran, en tout cas, pour ce résumé de la situation. C'est brillant. Et je donne la parole au docteur Dor au téléphone, qui va nous annoncer... il faut que je chausse le casque. Bon, alors faisons ça, parce que... Voilà. Allô, docteur ?
Allô ?
Y a-t-il un docteur dans la salle ?
Oui. Au bout du fil.
Comment allez-vous, docteur ?
Mais très bien.
Vous devez nous annoncer une...
Oui.
Une manifestation de plus.
Oui, une manifestation de plus. Alors, nous ne serons pas tout seuls cette fois-là. C'est donc le 2 juin. Donc lundi prochain, lundi 2 juin à 18h à l'Opéra. Ou alors, il y a 16 associations pro-vie qui appellent à manifester, et là, c'est un cri d'alarme sur le clonage. Alors, vous le savez bien qu'il y a ce projet de loi qui a été modifié par le Sénat et qui doit repasser en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et vous savez ce qu'il comporte, je le répète en deux mots, il interdit, ça c'est très bien, le clonage reproductif et le clonage thérapeutique, ça c'est une bonne chose, mais dans le même temps, il dit, vous le savez sans doute, qu'il, dans certaines conditions, à titre exceptionnel et pendant 5 ans, on pourra, en l'encadrant évidemment, intervenir sur l'embryon. C'est-à-dire qu'ils disent une chose et disent in fine exactement le contraire. Et ça, ce n'est pas supportable.
Ça ressemble tout à fait à la démocratie.
Et c'est tout à fait la démocratie. On dit une chose pour dire exactement le contraire. Personne ne sait plus où on en est. Et probablement, enfin je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si le projet va passer, mais s'il passe dans l'État, évidemment, on pourra donc toucher à l'embryon. Et alors, chose assez curieuse, c'est que on a donné la parole à René Friedman, je crois que c'est son prénom, René Friedman, qui travaille avec Lamar, il est assez connu, il s'occupe de fécondation in vitro, et là, il a l'audace, c'est comme, ou le front, je ne sais pas comment le dire, il a le front de parler de bébé médicament. Mais ceci, pas pour le rejeter, mais pour l'approuver. Il parle de ligne rouge, mais quand il parle de ligne rouge, c'est pour la dépasser, sous prétexte de compassion, de progrès, que nous serions en retard par rapport aux autres pays, ça se fait ailleurs, donc nous devons le faire. Et puis, il y a une loi sur l'avortement, on tue 150 000, c'est beaucoup plus, mais enfin, il dit 150 000, 160 000 enfants par an, pourquoi on serait donc plus sourcilleux sur l'embryon que sur, alors qu'il y a cet avortement? Enfin, il donne toutes ces raisons, toutes évidemment affreuses, je dirais. Et voilà. Alors, je crois qu'il serait vraiment heureux que, puisqu'il y a une entente entre les associations, c'est pas toujours tellement fréquent, il y a Renaissance catholique, il y a Choisir la vie, il y a le CSEN, le Comité pour sauver l'enfant à naître, il y a les protestants, il y a les AFC, mon Dieu, pour une fois où les AFC se mouillent, vous voyez, je crois qu'il serait intéressant donc que tous nous y allons, la parole sera donnée très rapidement à chacune des associations. Voilà, donc c'est place de l'Opéra à 18h.
Lundi 2 juin. Merci beaucoup, docteur.
Excusez-moi.
Oui.
Monsieur Péquet, alors, peut-être, sans abuser, je voudrais aussi simplement vous dire que nous avons aussi alors une manifestation, toujours devant les francs-maçons. Ça va être à la 5e du genre. Ce sera à la fin juin, le vendredi 27 juin, à 19h.
Alors, je voulais vous dire, il faut que vous en fassiez celle-là, et il faudra en faire encore deux derrière, parce que je suis passé tout à l'heure devant le Grand Orient rue Cadet, non pas pour y rentrer, contrairement à ce que certains pourraient penser, mais simplement parce que c'était sur bon chemin, et j'ai vu qu'il y avait des gros travaux. Alors, j'ai pensé aux murailles de Jéricho, et à mon avis, donc, si vous avez un peu de persistance, encore trois manifestations, et c'est bon.
Monsieur, c'est exactement ce que nous pensons, nous voulons faire comme Jéricho. Donc, 5 fois jusqu'en juin, et puis 2 fois après septembre-octobre.
Voilà. Très bien. Merci, docteur.
Voilà. Merci à vous.
Alors, rendez-vous lundi 2 juin à 18h, place de l'Opéra, pour la manifestation des organisations pour la vie. Contre le clonage. Alors, je donne maintenant la parole aux auditeurs par l'intermédiaire de la voix mélifluée de Victoria. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait le coup de la voix mélifluée.
Ça m'agace. Au sujet de cette messe...
Ça m'agace.
Au sujet de cette messe dont vous avez parlé, que j'ai enregistrée sur cassette, j'ai pu constater que les diacres étaient obligés de souffler au cardinal ce qu'ils devaient faire... Et cela m'a fait beaucoup de peine, dit l'auditeur. À propos des traditionnalistes et de l'impossible...
Dans toute célébration solennelle, le célébrant est toujours accompagné d'un ou deux cérémonières.
Oui, qui lui disent...
Parce que la messe solennelle, ce n'est pas tous les jours, ni même tous les dimanches qu'on la célèbre.
Même en maçonnerie, puisqu'on en parlait à l'instant, les vieux vénérables continuent à lire leurs livres pour célébrer pour ouvrir les travaux, sauf au rite émulation où on travaille dans le noir.
À propos des traditionalistes et de l'imposture de l'Église catholique romaine de samedi dernier, comment peut-on accepter ce genre de procédé, sachant que des principaux évêques de la tradition sont toujours excommuniés?
Je crois que le contraire a été dit de façon
très claire. Je ne sais pas quel est le sens de cette question.
Je pense que l'excommunication,
comment peut-on ne pas accepter, après l'avoir tant demandé, que la messe, que le rite traditionnel soit à nouveau honoré dans l'Église?
Alors le sens de cette question, c'est de mettre de l'eau sur le feu, peut-être, de l'huile sur le feu, peut-être.
De l'eau, peut-être. Oui.
C'est trompé de bouteille.
Mettons de l'eau sur cette huile.
J'étais à Rome, nous dit cette auditrice, le 23 février, où j'ai assisté à une messe en latin chantée à Saint-Pierre de Rome. Nous en avons été très étonnés, mais ravis.
C'est peut-être la messe de Paul VI, parce que la messe de Paul VI se dit en latin.
C'est que effectivement, il y a des messes qui sont dites en latin. Ça ne veut pas dire. On dit facilement la messe en latin ou la messe en français, mais ça, ce n'est qu'une conséquence extérieure. Et puis d'autre part, il y a à Rome, dans diverses églises, et à l'occasion, d'ailleurs, possiblement à Saint-Pierre de Rome, dans une chapelle, des messes qui ont pu être célébrées.
Selon le rite trident.
Ce qui est nouveau, c'est que ça ne soit pas célébré par un prêtre qui a une autorisation particulière ou qui n'en a pas. Mais solennellement par l'Église de Rome.
Ça y est, on a répondu à ma question. Oui, je demandais pourquoi on écrivait dans le Libre Journal qu'il y avait eu des milliers de messes traditionnelles. Est-ce qu'il y avait de nouveau? Là, on vient de me répondre.
Bien sûr, on n'avait pas célébré cette messe.
À Rome, il y a une messe de l'Institut du Christ Roi, et il y a une paroisse que je vois bien sur le Corso, qui a la messe nouvelle. Le dimanche, sauf à 10h, une messe de rite traditionnelle, etc., etc., etc.
D'autres questions, Victoria?
Non, c'est un commentaire sur l'Algérie. On
ça
revient.
Dit, si c'est lisible.
Un petit témoignage. Oui, alors, notre fille a fait sa profession de foi dimanche dans une église de Caen. Mon épouse était chargée de rédiger la prière universelle. Samedi soir, la responsable du catéchisme nous a téléphoné et elle a insisté pour qu'une intention distincte des autres soit dite pour l'Algérie qui vit un drame épouvantable en ce moment. Et dimanche, à la fin de la messe, le prêtre a souligné qu'en ce jour de fête pour nos familles, nous devions penser aux Algériens qui souffraient en envoyant des dons aux associations caritatives. Dommage, je ne sais pas si je lis le dernier commentaire, enfin je le lis, il ne nous restait plus de rôti de porc. Cette attitude... C'est à la fin du repas. Cette attitude du clergé français est vraiment écœurante.
Ils sont méchants, nos éditeurs.
On peut remarquer par là aussi le danger de cette... L'inconvénient, l'imprudence de ce qu'on appelle la prière universelle, où l'on demande, demande aux fidèles et même aux prêtres de fabriquer la prière qui lui passe par la tête. Ouais. Tandis que les prières traditionnelles de l'Église, dans leur formule, il y a des prières pour toutes, pour toutes les circonstances, pour la vie, pour la mort, pour le mariage, pour les fiançailles, pour les
tornades, enfin contre les tornades,
pour la pluie. Louis Salron, dont je parlais tout à l'heure, racontait cette histoire. Racontait cette histoire que je trouve très étante dans un presbytère de campagne, en discuter avec le curé, et il voit entrer un paysan. Ah, monsieur le curé, écoutez, la sécheresse, ça commence à faire longtemps, peut-être qu'il faudrait faire les oraisons pour la pluie. Ah ben oui, dit le curé, oui, en effet, on va y penser. Oui, mais c'est que ça presse, monsieur le curé, il faudrait que ça soit dès demain. Bien, mais je vous promets que je commence demain. Ah, bon, le paysan s'en va, et puis toc-toc, il revient. Mais, monsieur le curé, juste une petite bruine.
C'est trop mignon. Mais j'espère que je n'ai pas déjà raconté la semaine dernière, mais récemment, dans un monastère parisien, dont le père abbé était parti prendre sa retraite en Italie dans un monastère, enfin dans un couvent de, comme aumônier d'un couvent de nonnettes, on reçoit au moment du on reçoit une carte postale du père abbé qui est lue donc par le lecteur pendant le repas, et le lecteur commence à lire la carte et il lit: ici c'est vraiment l'antichambre du paradis. À ce moment-là, la porte du réfectoire s'ouvre et le frère portier rentre complètement décomposé, blême, en disant: c'est affreux, je viens d'avoir un coup de téléphone, le père abbé vient de mourir d'une crise cardiaque. Et alors, un ami laïc qui était là dit, parce que tous les frères, naturellement, étaient effondrés, et cet ami dit, bah, écoutez, c'est une merveille, enfin, il vient de nous envoyer une carte postale pour nous dire qu'il est entré au paradis. Et il me dit, à ce moment-là, ils m'ont tous regardé comme si j'étais un toqué. Donc, on est à une époque où, quand il se produit un petit miracle, les moines et les curés ont du mal à y croire. Alors, comment voulez-vous que les fidèles marchent?
Les gens ont du mal à voir les signes.
Pas tous les moines, grâce à Dieu, et pas tous les prêtres.
Je généralise comme d'habitude, on va encore me faire le reproche. C'est tout. Alors, il faut quand même évoquer une affaire dont j'ai parlé la semaine dernière.
Sans transition.
Oui, sans transition. Alors là, vraiment, sans, je ne sais même pas de faire une transition. C'est l'affaire, le scandale Baudis. Il nous reste 5 minutes.
Avant la coupure technique. Vous écoutez Radio Courtoisie à propos, j'espère que vous vous en rendez bien compte.
Et donc, cette affaire Baudis, bon, tout le monde sait de quoi il s'agit. Un tueur en série est arrêté pour avoir assassiné des tas de femmes. Il est accusé d'avoir assassiné des prostituées pour les faire taire parce qu'elles savaient trop de choses. Et deux prostituées témoignent spontanément 10 ans après les faits que parmi leurs clients, enfin parmi les gens qui participaient à des soirées sadomaso, il y avait quel est son prénom, Baudis,
Dominique
Baudis,
président
du CSA, ancien maire de Toulouse. Et comment apprend-on cette information? On apprend cette information parce que Baudis lui-même vient à la télévision et dit: voilà ce qui se passe, je mets les choses à plat, évidemment je n'ai rien à voir avec tout ça, etc. Bon, d'où l'affaire qui continue et puis qui se développe, et maintenant on en est à Baudis qui est accusé, plus un procureur général qui s'appelle Monsieur Wolf, qui a démissionné pour laisser place à l'enquête, pour ne pas être accusé de faire obstacle à la vérité.
Deux autres magistrats
aussi. Donc ça commence à prendre des proportions.
Mais pour Baudis, il faut souligner quand même, je crois, la coïncidence éventuelle, c'est que les personnes qui l'ont accusé étaient soumises à l'instruction et interrogées depuis 3 ou 4 ans,
oui,
et ont découvert ces accusations-là à la suite du fait que Baudis, en sa qualité de CSA, ait engagé une action, d'ailleurs assez timide, mais une action contre le développement de la pornographie à la télévision.
Oui, absolument.
Alors, il y a vraiment une coïncidence.
Ce qui m'amène à vous parler de ça, c'est deux choses. D'abord, je voudrais faire un constat, c'est que j'ai pas d'informations particulières sur Monsieur Baudis, mais je crois pouvoir dire sans trop m'avancer qu'il n'est pas totalement idiot. On peut dire ça entre nous. Bon. Et alors, s'il est maire de Toulouse, et que, avec Monsieur Wolf, procureur de Toulouse, Monsieur je ne sais quoi, magistrat à Toulouse, Monsieur je ne sais comment, autre magistrat à Toulouse, s'ils se réunissent une fois par semaine ou une fois par mois, pour aller participer à des partouzes sadomasochistes au cours desquelles on tue des femmes,
dans un château
appartenant à la municipalité de Toulouse, je vais quand même me poser des questions. Je me demande si Monsieur Baudis et les magistrats de Toulouse sont aussi intelligents qu'on le dit, hein. Parce que franchement, ça doit être dans leurs moyens de prendre un avion s'ils ont ces habitudes-là, et d'aller les satisfaire soit à Londres, soit à Amsterdam, où tout ça est parfaitement d'ailleurs légal, et où ils ne risqueraient rien du tout, et surtout pas de rencontrer le notaire,
les électeurs,
et puis moi je suis de la vieille école, je veux dire, j'ai pas confiance dans les hommes politiques, mais quand même, je vais continuer à faire partie de ces gens qui, quand deux personnes parlent, et que sur ces personnes, il y a un monsieur qui est parfaitement recommandable et une dame qui est une prostituée, j'ai plutôt tendance à faire confiance au monsieur recommandable. C'est peut-être idiot comme réaction, mais en gros, c'est quand même ça. Et puis, je vois que cette histoire tombe trop bien, en fait. Elle tombe effectivement à un moment après que Baudis s'est lancé avec le CSA cette offensive contre le cinéma porno à la télévision. Mais ce que je crois, c'est que son explication, elle est pas valable. C'est-à-dire que Baudis a dit ça à la télé, il a dit c'est à cause de ça. Ça tient, à mon avis, ça tient pas debout pour une simple raison, c'est que le CSA, sa décision a été de nul effet. De nul effet. C'est-à-dire qu'il y a très exactement autant de films porno qu'avant à la télévision, sur le câble et sur la télévision officielle. Et que cette situation se produit parce que il y a trois personnes qui se sont opposées immédiatement au projet Baudis. C'est premièrement Jacques Chirac, qui a donné l'ordre que le projet de loi, que la proposition de loi ne soit pas soutenue. Immédiatement après, M. Raffarin, qui a pris la même décision, qui a annoncé la même décision. Et troisièmement, M. Ayagon. Et quatrièmement, M. Debré, président de l'Assemblée nationale, qui a, au nom de la liberté de création, a dit qu'il ne fallait pas interdire le cinéma pornographique à la télévision. Donc, cette idée a été abandonnée complètement, et la mafia, la mafia du porno business, n'a pas eu besoin de punir M. Baudis, puisque, elle n'a absolument pas souffert de ses décisions. Donc, il doit y avoir une autre explication dans une affaire qui est à l'évidence un montage grotesque. Et maintenant, on arrive à la coupure. Je vous donnerai la parole après, si vous voulez, mais je voudrais lire une lettre qui me paraît significative d'un auditeur. Voilà, alors j'avais dit que je lirais une lettre. Bon, cette lettre me paraît intéressante parce qu'elle montre comment fonctionnent certains cerveaux devant le matraquage télévisuel et médiatique. Alors c'est donc un monsieur qui m'écrit: lors de votre émission, vous avez sans barguigner aucunement totalement disculpé l'ancien maire de Toulouse, Dominique Baudis. C'est pas vrai, déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il m'a pas entendu. Vous êtes pratiquement le seul à avoir pris cette position. Les journalistes de la presse écrite et des médias ont adopté une prudente attitude de réserve, expectante. Vous êtes très renommé. Bon, bref, vous êtes très renommé, dit-il, pour votre volatilité et votre imprévisibilité. C'est pas totalement faux. Mais je suis tellement imprévisible que ça devient imprévisible, au fond.
Moi, vous n'avez pas changé d'avis depuis une semaine.
Voilà, c'est ça.
Quelque chose.
Non, mais quand il dit que vous êtes pratiquement le seul, c'est absolument faux. Je suis pas le seul. Il y a beaucoup, beaucoup de journalistes. J'entendais l'émission de Gérard Marin tout à l'heure, où il disait exactement la même chose, cette histoire.
Mais
en quoi est-ce péjoratif d'être seul?
Seul parmi le torrent des grands médias et de la grosse presse.
On a quand même l'habitude.
Et de leur langue de bois uniformisée.
Alors, on a l'habitude d'être les seuls.
On a l'habitude, oui.
Alors il ajoute les arguments, parce qu'il présente ensuite les arguments qui lui donnent à penser que cette histoire est pas. Que j'ai tort de penser ce que je pense. Alors il a vu, monsieur Baudis dégoulinant de sueur. Ça, c'est dégoulinant de sueur à la télévision.
Il dégoulinait tout le temps, quand bien souvent il prenait, quand il était à la radio, c'était une réaction, et que bien souvent les assistantes ou les assistants venaient l'éponger.
Oui, qu'il présentait le journal de FR3,
ce qui me paraît ce qui me paraît extraordinaire, c'est qu'on puisse fonder un soupçon sur le fait qu'un type qui est accusé d'avoir fait des choses effroyables, d'avoir été complice d'assassinat, et une goutte de sueur qui lui coule le long du front le moment où il se défend. Alors, vous devriez être beaucoup plus calme, vous comprenez.
Sa faveur. S'il était coupable,
mais ce qui
il
est effrayant, c'est que je lis cette lettre parce que ces arguments-là, je les ai entendus plusieurs fois depuis la semaine dernière. Et notamment, l'histoire de la sueur, ça fait l'objet de plusieurs appels téléphoniques
dans
sur Europe
1.
Dans tous les journaux. Il est en sueur. Bon.
Mais Robert Hirsch, dès qu'il rentrait sur la... C'était hallucinant.
Littéralement un filet d'eau derrière lui.
C'était hallucinant.
Et pourtant, je pense pas qu'il avait fait ce qu'on reproche à M. Oui, j'en sais rien, mais bon.
Mais pourquoi alors, vous inspirez ces...
il a choisi, pour passer à la télévision, nous dit cet auditeur, un jour où officiait la journaliste des week-ends. Dame Bébête et Servile. Ça lui a invité ainsi le présentateur habituel, plus mordant et moins conciliant. Je rappelle que le présentateur habituel, c'est PPDA. Présenter PPDA comme un foudre de guerre, à mon avis, c'est au moins excessif.
Il est passé sur la 2.
Non, au
TF1,
oui.
Non, sur la une.
Absolument. Qui devait recevoir Hollande, d'ailleurs, et qui lui a, comme quoi on n'est pas, Serge n'est pas tout à fait tout seul à défendre, à lui permettre de s'exprimer, à se défendre, puisqu'on a viré Hollande qui était invité ce jour-là.
Troisième argument, l'affaire en question implique des meurtres. Pas une seule fois, ce personnage, pourtant ancien maire de Toulouse à l'époque, n'a eu une parole de compassion. Je trouve cet argument extraordinaire.
Ah oui, il aurait même dû condamner les meurtres. Et vous n'avez pas condamné ce qui s'est passé
voilà, à Tokyo. Mais il a parlé d'acte. Il a parlé de cette barbarie.
Oui, bien sûr. Mais vous allez voir où on arrive. Alors, je trouve parfaitement extravagante l'idée d'un machiavélique complot de l'industrie du porno. Dit cet auditeur. Alors je l'invite, je m'excuse de faire de la pub, à lire les 5 pages de révélation que le Libre Journal consacre à l'industrie et à la mafia du porno, et vous allez voir si c'est une histoire extravagante. Je vous signale quand même qu'en France, il y a 2 empereurs du porno, 2 caïds milliardaires du porno, qui sont actuellement en fuite, après avoir été arrêtés et libérés dans des conditions absolument scandaleuses, alors qu'ils étaient inculpés d'assassinat et de complicité d'assassinat pour avoir tué des jeunes filles au cours de prises de vue. 2, dont les noms sont dans le journal. Donc, il y a une mafia du porno business en France, qui est une mafia violente et criminelle. Le marché du porno business en France, c'est 1 milliard d'euros au minimum pour les cassettes, et au minimum 600 millions d'euros pour le théâtre, pour le cinéma. Il faut savoir que, par exemple, la chaîne AB de monsieur Azoulay Berda, 50% de son chiffre d'affaires est représenté par le cinéma pornographique. Que Canal+ achète un film pornographique 30 000 euros et gagne par la diffusion de ce film 15 fois plus, 450 000 euros à chaque fois qu'il diffuse un film pornographique. Donc c'est un marché gigantesque pour lequel on tue absolument sans hésitation. Il y a des gens qui ont été tués, il y a des acteurs qui ont été tués, après avoir tourné dans les films porno parce qu'ils ont assisté à des choses qu'ils voulaient dénoncer. Il y a eu des comédiennes qui ont été tuées, il y a eu des réalisateurs qui ont été tués, et il y a au moins 2 producteurs qui sont actuellement en fuite, sans qu'on, d'ailleurs, semble très très pressé de les chercher. Donc c'est une réalité. Ça.
2 mots pour que vous respiriez, pour donner encore une idée aux auditeurs. Aux États-Unis, d'après, non pas d'après nous, les agités, mais d'après US News and World Report, le chiffre d'affaires de la pornographie a dépassé celui de Hollywood depuis plusieurs années.
Alors cet auditeur continue, vous nous dites qu'en 27 ans de travail à minute, vous avez été mis au courant de tellement de choses concernant les milieux maléfiques et leurs pratiques, et que vous n'avez jamais entendu parler de body, c'est un peu maigre comme argumentation. C'est pas une argumentation, c'est tout simplement un fait que je constate. Le fait est que j'ai entendu parler de beaucoup de personnalités politiques, du spectacle, du show business, vous aussi Emmanuel, je ne fais pas de dessin, et que jamais on a entendu parler de body. Enfin moi, jamais en tout cas, bon. Alors, il ajoute cet argument final, il n'est pas impossible que Bodis ait été quelque peu piégé. Mais c'est pas impossible, effectivement. Il n'est pas non plus impossible que Bodis ait débarqué d'une soucoupe volante en arrivant de la planète Mars il y a 3 ans. C'est possible, on n'y aura pas de preuve du contraire. Bon. Et là, on arrive à la clé du truc. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Il y a 2 arguments. Élise Baudis est peut-être mouillé là-dedans, même s'il est incapable de frapper quelqu'un. Eichmann, qui n'a jamais frappé personne de sa vie, se contentait de remplir des papiers et de les faire suivre, et il a été jugé coupable. Pourquoi est-ce qu'on nous fout Eichmann dans cette histoire? J'en ai pas la moindre idée, peut-être que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre. On a l'impression que c'est une espèce de tampon obligatoire. Tac, voilà, on a parlé de la chose, donc c'est très bien. Et il termine, il ne doit pas être très rassuré à la pensée qu'il n'y a que vous parmi ses anciens collègues comme champion. Il est des soutiens dont on se passerait facilement. Alors autrement dit, il faut que je présente mes excuses à Monsieur Baudis de ne pas croire dans l'état actuel des choses et en l'état actuel de la question ce qu'on raconte de lui. Mais encore une fois, moi je trouve que cette histoire pue énormément le montage médiatique quand on sait, j'invite encore une fois à lire ce que j'écris dans le Libre Journal là-dessus, quand on sait quelles sont les équipes, quels sont les gens qui sont derrière la mafia du porno, et notamment quels sont les réseaux que finance l'argent de la pornographie, notamment les réseaux de la subversion, notamment les réseaux de l'agitation, de l'agite propre en particulier pour la légalisation de la drogue, de l'usage du cannabis. Tout ça est parfaitement lié. Ce sont les mêmes groupes. Ce sont des groupes qui participent à l'édition de livres écrits par certains magistrats dans certaines conditions. Enfin, on voit très bien qu'il y a un réseau extrêmement bien monté, richissime, très puissant et très dangereux. Et simplement, je crois que là, ils ont fait un peu trop fort, parce que je reviens à ce que je disais au début, et je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères ici présents. Plusieurs magistrats, le maire de la ville, naturellement, il doit y avoir des notaires, des architectes, des avocats, des hauts fonctionnaires, des policiers, on le sait, etc., qui vont faire leur petite cochonnerie à 200 mètres du centre-ville dans un château appartenant à la municipalité. Ça me paraît un petit peu extravagant. Voilà. Je sais pas, Camille, vous avez une,
oui,
une opinion?
Oui, c'est ce que j'ai écrit, puisque j'ai fait l'édito la semaine dernière sur cette affaire. Je trouve en effet, Baudis a sans doute des tas de défauts. Il n'est pas totalement débile.
Oui, tout à fait cet avis. Ça sent le montage bête, et je dirais peut-être même de la bêtise plutocratique.
Jean-Claude ?
Oui, d'abord, bien préciser que le président du CNSA ne décide pas. Il ne propose, il ne fait que proposer. Alors, dans l'affaire des films pornographiques, je ne sais pas quelle est sa position, effectivement.
Il l'avait annoncé très clairement en disant qu'il ne se plaçait pas du point de vue moral.
Voilà.
Et je ne veux pas rétablir l'ordre moral, simplement je veux protéger les enfants.
La seule chose que nous avons eu à reprocher à M. Baudis, président du CSA, c'est que sur les temps de parole concernant l'élection présidentielle, il n'a pas toujours fait le nécessaire pour faire respecter le temps de parole de Jean-Marie.
Parlez-moi d'un doute, c'est pas à cause de ça quand même que...
En ce qui concerne l'affaire de Toulouse, National Hebdo sera très prudent, jouera un peu les Normands. Je crois qu'il faut attendre l'évolution de ce qui se passe et de l'enquête qui est en cours.
Si M. Raté n'a rien à dire, comme sa pause décontractée semble l'indiquer, je vais vous annoncer, moi, je vais vous confirmer, Serge, qu'on n'est jamais trahi par les siens, puisque l'ensemble de nos confrères a l'air de vous suivre d'assez près, et que donc c'est moi, secrétaire de rédaction de votre journal, de votre libre journal, qui vais non pas vous porter la contradiction, mais émettre quelques réserves. J'ai lu, évidemment, j'ai été très impressionné par vos 5 pages de révélations, et vous n'abusez pas du mot, concernant la mafia du porno dans le numéro en cours du Libre Journal, numéro 294. Effectivement, vous reliez des faits dont je connaissais une faible partie, certains dont j'avais jamais entendu parler, certains qui sont très récents, et c'est très impressionnant, et je pense qu'il n'y a aucun doute que, contrairement à ce que Monsieur Marc Dorcel, l'empereur des cassettes porno français, vient de déclarer à France Soir, il y a bel et bien une mafia du porno qui est très riche et très puissante. Maintenant, donc la réserve que je veux émettre, c'est que ça n'innocente pas nécessairement Monsieur Baudis, même si, pour ma part, contrairement à votre correspondant, moi je respecte votre intuition. Je vous ai entendu il y a une semaine exprimer une intuition qui était très conclusive, très animée, et je pense qu'il faut respecter cette intuition, même si, moi je suis comme un journaliste standard, même si je suis dans le ghetto d'extrême droite, je suis comme ces journalistes ordinaires des médias, du mainstream, des médias courants, dans l'expectative, surtout quand je lis aujourd'hui dans le numéro de Minute qui vient d'atterrir dans les kiosques aujourd'hui, et qui malheureusement le reprend de VSD, que une autre prostituée dans une autre ville, à savoir Paris, membre du réseau de call girl d'Annika Brumac, une toute autre affaire, certifie que M. Baudis était son client. Alors vous-même, Serge, dans ces 5 pages de révélation, vous expliquez comment les clients du porno passent, comme les drogués, des émotions faibles aux émotions fortes. Je me dis que si peut-être que M. Baudis, au cours de ses voyages parisiens, a pris
goût, à certaines sensations, et que peut-être, comme on le suggérait dans la lettre que vous avez eue tout à l'heure, on l'a entraîné dans des parties où il y avait des sensations un peu plus vives, et puis il a assisté à des actes de barbarie sur des mineurs, et peut-être il s'est sauvé.
Non, moi je crois pas du tout à cette histoire. Je crois d'abord que là on est vraiment là, on a une démonstration supplémentaire de la malignité du montage. C'est-à-dire que on a sorti un interrogatoire, enfin une écoute téléphonique qui est ancienne et qui n'est pas avérée. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas avérée. Mais quand bien même elle serait avérée. Jusqu'à plus ample informé, la fréquentation des prostituées n'est pas interdite en France. C'est pas un crime. Donc c'est vraiment, on est là au cœur d'un montage vicieux qui consiste à dire, ça c'est la vieille technique de l'amalgame, hein, c'est, comme dit Bernard Anthony dans un article du Libre Journal, Bernard Anthony invite un conférencier à parler, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec le conférencier cite Marx, c'est-à-dire que Bernard Anthony est marxiste. Là, on est exactement dans ce genre de fonctionnement si logique, hein, où on dit une prostituée déclare une écoute téléphonique qui n'a pas de caractère légal, affirme qu'une prostituée aurait dit que M. Baudis était son client. Par conséquent, ça prouve que M. Baudis, une prostituée parisienne, donc ça prouve que M. Baudis a participé ou assisté en témoin muet à des assassinats dans des parties sadomasochistes à Toulouse.
Ça me paraît complètement,
et c'est contradictoire.
C'est contradictoire. Voilà.
Évidemment, parce que
s'il faisait, si j'ose dire, ses coups en douce à Paris, c'était pas pour les faire à Toulouse.
Donc tout ça me paraît. Je trouve que cette histoire de Madame comment elle s'appelle cette jeune fille?
Wafa, c'est une Marocaine.
Wafa, vraiment, c'est pas comme Jamel qui s'appelle Jean-Philippe en réalité.
Oui, enfin Jean-Philippe haïtien.
Ouais.
Il pense assez sérieusement.
C'est évident.
Voilà, assez sérieusement.
Voilà, mais je vous remercie d'avoir participé à ce clan de la presse. Un dernier message.
Oui, il y avait un auditeur. Le témoignage de cette prostituée rappelle à cet auditeur le témoignage d'une prostituée algérienne en situation irrégulière il y a une quinzaine d'années contre le commissaire Jobbik, qui avait trop bien réussi contre les trafiquants de drogue et qui a gagné à l'arraché, heureusement, l'immonde procès qu'on lui avait intenté. Ouais.
Je voudrais quand même juste un mot. C'est quand même l'abyssal silence de M. Douste-Blazy sur son prédécesseur.
Oui. Bon, on en parlera.
Vous voulez dire que peut-être les témoins ont confondu les deux maires de Toulouse?
Non.
On a essayé d'être correct et tout. Voilà, il fait tout notre édifice d'hypocrisie vient de s'effondrer sous un seul coup de Jean Valjean. Merci Jean, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Selon la tradition, je vais quand même vous demander de rappeler les adresses de vos journaux respectifs et respectables. On peut commencer exceptionnellement par...
Je pourrais simplement citer quelque chose de très important. Alors que la préférence française...
Dans le micro, s'il te plaît.
Alors que la préférence française est sévèrement sanctionnée par la justice depuis la fin de l'année dernière... La société d'assurance AXA a décidé d'accorder la préférence aux émigrés. Ainsi, on peut lire dans le journal interne numéro 31 de cette société d'assurance destinée aux collaborateurs du groupe qu'à diplôme égal, les jeunes issus de l'immigration doivent bénéficier d'une préférence de recrutement.
C'est la discrimination positive, ça.
Voilà. Alors, je pense que c'est quand même une information importante.
Mais ça avait été annoncé, d'ailleurs, en novembre. Mais est-ce que l'actuel président de d'AXA n'est pas un monsieur de Castres?
Il n'y a pas de Toulouse, en tout cas. Bon, écoutez, je ne sais pas, mais si on peut appliquer la préférence nationale, on a aussi parfaitement le droit d'appliquer la préférence dans le choix de la compagnie d'assurance.
Dans la discrimination positive est celle qui se fait au profit des supposées minorités défavorisées. Voilà, mais enfin, je voulais signaler ça à nos auditeurs, pour ceux qui veulent s'abonner à National Hebdo, 6 rue Vauguyon, Saint-Cloud, 92 200. Un numéro d'essai leur sera adressé, le téléphone 01 41 12 10 00. Merci.
Camille.
Oui, je regrette un peu qu'on n'ait pas parlé d'Évian et surtout de comment Chirac a acheté la présence américaine à Évian en abandonnant, en trahissant complètement l'Irak, en signant cette scandaleuse résolution de l'ONU. C'est l'objet de... On en parle dans le numéro qui paraîtra vendredi. Donc on peut nous le commander au 1 rue d'Hauteville, 7510 Paris. Et on peut avoir un spécimen en téléphonant vendredi au 01 53 34 97 97. Le fax est 01 53 34 97 98 et par internet rivarol.com.
Merci Camille. Jean Madian.
Eh bien, présent tous les jours sur le net. Vous pouvez, à partir de 2h de l'après-midi, lire la une gratuitement, la une du numéro de présent qui porte la date du lendemain, car présent est un journal du soir, empêché d'être un journal du soir par les autres modes de communication maintenant, qui sont trop chers ou qui sont supprimés. Mais donc, tous les jours, vous avez la une de présent à partir de 2-3h de l'après-midi sur le site de présent. En attendant de l'avoir entièrement, ce qui pourrait venir prochainement.
J'ajoute que présent a ouvert une souscription pour faire face aux difficultés qui sont liées à la situation que vous venez d'expliquer et aussi au fait que vous n'avez pas d'aide. Les auditeurs doivent être au courant, ça fait longtemps que ça dure, et si on veut participer à cette souscription, on peut le faire d'une façon...
On peut le faire. D'ailleurs, on trouve l'adresse de présent 5 rue d'Amboise. Présent 5 rue d'Amboise, 75002 Paris, mais on trouve tous les renseignements sur le site de présent.
Présent.com, n'est-ce pas?
Comment?
C'est présent.fr.
Oui.
Emmanuel, est-ce que, en dépit de votre air bougon, vous voulez encore nous dire où est-ce qu'on peut se procurer? Oui, c'est 75001 présent, bien sûr. Où peut-on se procurer votre excellent fait et document?
Alors, fait et document, c'est BP254. 75-424, Paris CEDEC 09, sinon c'est fait-document.com, et donc le numéro là qui sort pour le 1er juin revient sur ce dont j'avais longuement parlé dans deux numéros, et dont aucun journal français n'a parlé, qui est la réunion du groupe de Bilderberg qui a eu lieu à Versailles. Donc je l'avais annoncé très en avance avec des documents, et là je publie des documents exclusifs.
Avec la liste des participants.
Et je publierai la liste des participants dans le numéro d'après.
Voilà,
j'ai notamment la circulaire interne des voyages officiels, notamment, qui sont furieux parce qu'ils n'ont même pas eu le droit d'assurer la sécurité des personnalités présentes.
C'est tout à fait
qui avaient été confiées à des sociétés privées. Enfin, c'est un exemple des documents.
Des personnalités, dont parmi lesquelles des chefs d'État qui sont venus en France,
des
rois et des reines qui sont venus en France participer à une réunion d'une organisation quasi clandestine qui s'appelle le Bilderberg Group, ont été reçus en France dans des conditions où, vous nous le dites, la police française, les services des voyages officiels français ont été écartés de l'organisation de la sécurité au profit de sociétés privées, de milices privées, c'est-à-dire qu'on a toléré que des gens armés se baladent sur les territoires français, des étrangers armés, c'est complètement fou. Enfin, ces gens qui nous pomplèrent à longueur d'année avec la célébration du 8 mai 45, où on a chassé des étrangers armés, aujourd'hui, ils tolèrent.
Mais oui,
c'est incroyable. Armés. Incroyable.
C'est la même chose pour Evian, où la surveillance est assurée par des AWACS américains qui donnent les instructions à nos mirages.
Et Web 16 de Suisse.
En ce qui concerne le libre journal, puisque c'est mon tour, on a suffisamment dit que nous publions dans le numéro 294 qui vient de paraître 5 pages de révélations extrêmement troublantes sur la mafia du porno. Cela laisse encore 19 pages, notamment pour le journal de François Brignot, notre signature historique. Beaucoup d'autres sujets, c'est encore un numéro très dense. Mais surtout, je veux conclure en rappelant que c'est le 10e anniversaire du Libre Journal et que nous allons le célébrer le 15 juin à la maison des aveugles de guerre, 49. Il y a des auditeurs qui se plaignent. Là, je suis en train de bredouiller volontairement pour leur laisser le temps de prendre un papier et un crayon, parce que ça me paraît indispensable. Donc, ce sera le 15 juin de 10 à 18 heures à la maison des aveugles de guerre, 49 rue Blanche, métro Blanche, Paris 9e. Nous
l'entrée sera gratuite. Nous accueillerons peut-être pas autant d'auteurs qu'il en vient à cette immense fête du livre de Radio Courtoisie qui est repoussée cette année s'inédier, mais en tout cas beaucoup d'auditeurs. Ouais, Sendai, ouais. Beaucoup d'auteurs extrêmement prestigieux. J'ai relevé les noms de Vladimir Volkov, de Dominique Venner, de Jean Raspail, et je m'excuse auprès de ceux que j'oublie. Ce sera terminé en fanfare par un banquet. Vous voulez qu'on dise un grand dîner?
Mais j'aime pas le mot banquet, je trouve que ça fait noces et banquets.
Bon, alors il y aura ni noces ni banquets. Il y aura un grand dîner d'anniversaire qui, lui, ne peut pas être gratuit. Et même, on a choisi délibérément de le taxer à 50 euros parce que nous n'avons que 100 places. Donc, il y a beaucoup de réservations qui sont déjà arrivées. Oui. Il y a beaucoup de réservations qui sont déjà arrivées, mais on peut encore donc inviter les gens à envoyer 50 euros pour donc réserver leur place à ce banquet. Envoyer un carnet de timbres s'ils veulent un spécimen du Libre Journal, 110 euros s'ils veulent être abonnés pour un an à ce journal qui publie 24 pages trois fois par mois, et enfin, on peut leur rappeler que le site internet pour avoir un spécimen gratuit de numéro plus ancien, bien sûr, c'est libre-journal.fr.fm. Donc pour les abonnements et autres réservations, l'adresse c'est 4 places. Franz Liszt, 75010, Paris.
Je rappelle que, enfin, je signale qu'au dîner, Camille Gallic sera là. Peut-être Emmanuel, je ne sais pas, est-ce que vous viendrez, vous serez là pour la journée, mais est-ce que vous serez là au dîner?
Je viens, mais il faut que j'en parle à mon épouse. Ah, commence à trouver que.
Demander l'autorisation, moi je connais ça.
Ça commence parfois à bien faire.
Jean-Marie ne sera pas là, je sais, il est en vacances.
Charles sera là, mais il faut qu'elle demande à son.
Je serai absent tout le mois de juin. Hein.
C'est je suis à Paris, je viendrai.
Alors, Jean-Claude. Et Charles, peut-être, si son chat est d'accord.
Voilà. Ça a lieu également, le dîner a lieu également.
Sur place, oui. Voilà. Merci encore à tous et nous passons à la suite de l'émission. Pendant que Victoria me tient des apartés coquins, vous rentrez comment, me dit-elle, mais ça ne vous regarde pas, cher ami, enfin, c'est incroyable, ça.
Donc, gentil.
Donc, pendant que nous avions des apartés sous le couvert d'une jolie petite musique de harpe, nous avons fait entrer nos invités. Pour la deuxième partie de l'émission, nous allons parler d'une façon cohérente et logique de bicyclette, de vélo, pardon, monsieur le bicycle, puisque je sais que les cyclistes n'aiment pas qu'on dise la bicyclette, de légitimisme avec monsieur de Bellecourt et de psychanalyse et d'escroquerie, on peut dire ça comme ça, avec monsieur Benesto, qui est psychologue clinicien et qui vient de publier un livre, alors je le dis vraiment formidable, qui s'appelle Mensonge freudien, dans lequel il décortique l'escroquerie freudienne, l'escroquerie de la psychanalyse, et c'est une bombe atomique, ce livre. En plus, il est drôle, il est écrit d'une façon, je sais que c'est pas un petit bouquin, hein, c'est vraiment une somme, c'est un vrai travail. On va parler de ça tout à l'heure. Je donne d'abord la parole.
Est-ce que je peux vous demander je sais qu'après elle va
allez-y,
me consulter.
Faites votre annonce.
À l'occasion de la sortie du nouveau roman d'ADG. Le Centre Henri et André Charlier vous invite pour une rencontre sur le thème « Soirée blanche pour Polar Noir » avec Jean Bourdier, journaliste et écrivain, et ADG, journaliste à Rivarol, écrivain. Débat animé par Alain Pocard, journaliste à Radio Courtoisie, écrivain. Le mardi 3 juin, à 19h30 précise, au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e. Métro Maubert Mutualité. Alors, les auteurs dédicaceront leurs ouvrages tout au long de la soirée. Buffet de l'amitié française à l'issue de la réunion. Participation aux frais, 5 euros par personne. Renseignements, 01 40 51 74 07.
C'était pas préparé, mais j'enchaîne avec votre permission, Serge, en disant que, quelle joie c'est pour nous de voir notre vieil ami ADG à la une de François, de François Roux, le vilain lapsus, à la une du Figaro.
De Libération.
De Libération.
Pas aujourd'hui, aujourd'hui. Il y a eu un grand papier dans Libé.
Alors, à côté du titre, avec une photo magnifique, ADG, le retour d'un réprouvé. Alors, notre ami Sébastien Lapin, qui en page 27 n'explique pas très bien en quoi il est réprouvé, au contraire, puisque c'est un anard de droite d'après lui, ce qui est très bien porté, mais il chante vraiment la qualité de ce polar qu'on attendait depuis 15 ans de la part d'ADG, et vous voulez que je lise cet extrait qu'on a lu ensemble hier,
oui,
qui nous attend plus. Alors, c'est vraiment un polar, la PAC dit que 5 lignes d'ADG suffisent à renvoyer la plupart de ses cadets au vestiaire. Un exemple, 2 points, ouvrez les guillemets. Il faut préciser d'abord que ce kangourou de movie qui vient de paraître donc chez Gallimard se passe en Australie, et que même il avait l'intention de refaire une de ses plaisanteries qui consistait à se faire passer pour le traducteur d'un auteur australien, et que évidemment pour être à la hauteur il a dû documenter. Et il écrit donc, a déjà écrit, au-dessus de nos têtes la croix du sud, flanquée du centaure, brillait sans ciller tandis que Mars, une terre aussi rouge et désolée que celle où nous campions, pour chasser maléfiquement les Pléiades. La Voie lactée adoucissait ce chaos organisé en ruisselant de scintillements maternants, et des étoiles filantes entamaient leur descente vertigineuse. Le silence qui suit est encore d'ADG, entrecoupé de la toux.
Pardon, je suis désolé.
Ému, bouleversé de son
émission. Ça montre bien que le polar peut être une véritable littérature. Excusez-moi. Quelqu'un a fumé.
J'ai fumé dehors, ouais. Serge.
Oh, il a ramené la fumée.
Non, il a rapporté un nain de fumée. Donc ne manquez pas cette soirée avec ADG, Bourdier et Pocard. Trois amis et trois écrivains que nous apprécions énormément. Au Centre Charlier. Vous nous rappelez la date encore une fois?
70 boulevard Saint-Germain.
Ça, c'est l'adresse, mais la date?
Le mardi 3 juin à 19h30 précise.
Bien, alors parlons de légitimité. Monsieur de Villecourt, vous organisez une nouvelle fois l'université d'été légitimiste. Où se passe-ce? Quand se passe-ce?
Ça se passe en Anjou, entre Angers et Tours, et la Flèche et Saumur. C'est la 11e université d'été légitimiste, et le thème cette année est la décentralisation, régionalisation, quel aménagement légitime. Un vaste sujet.
Mais en plus, vous êtes dans l'actualité avec la décentralisation.
Dans l'actualité, oui.
Et qui nous sont avons les invités?
Des professeurs remarquables, des intervenants remarquables, comme le frère Maximilien Marie, vous connaissez, la sainteté de la Maison de France, Jean-Pierre Brancourt, qui est professeur à l'Université de Tours, et qui parlera du cadre de la société française de l'Ancien Régime, Francis Choisel, que vous connaissez, qui est souverainiste, enfin qui est président de l'Alliance pour la souveraineté de la France, qui nous parlera du souverainisme, nouvelle approche de la question régionale, nationale, européenne. Jean-Yves Clouzet, avocat, que vous connaissez, qui a parlé à Radio Courtoisie, riposte à l'encadrement politico-médiatique quelques aspects régionaux et européens de ce combat. Nous aurons ensuite je les prends par ordre alphabétique, un économiste, Arnaud Colbert, penser globalement, agir localement. Nous aurons un professeur qui a une chaire de droit constitutionnel, le professeur Philippe Lovot, l'actuelle réforme des institutions européennes. Didier Patte, ensuite, qui nous parlera, qui est connu, qui est président du mouvement normand, qui nous parlera du régionalisme, nationalité, quelle légitimité. Le professeur Jean-René Pelletier, qui est professeur de philosophie, lui nous parlera d'un sujet totalement différent, puisqu'il est spécialiste de chinois. Il nous parlera du centralisme et décentralisation dans le laboratoire chinois. Philippe Pichot-Bravard, qui est juriste et professeur, les précurseurs de l'idée européenne, Nicolas Tandler, journaliste que vous recevez, je crois, à Radio Courtoisie, redécouvrir les libertés régionales en alliance avec la légitimité, Claude Timmerman, éditorialiste et ancien professeur,
collaborateur du Libre Journal, d'ailleurs,
l'inversion des repères préalable à la mondialisation comme à la régionalisation, et le professeur Olivier Tournafond, qui est professeur des facultés de droit, la suppression des départements, qui est un peu un thème dont on parle actuellement. Et nous aurons aussi la participation de Ignace et Miège, que tout le monde connaît, deux dessinateurs sur humour et politique. Et nous aurons aussi André Galabru.
Ah, c'est bien. C'est très sérieux, ça dit. Non, mais il y a toujours une bonne ambiance, je crois, chez vous.
Hein. C'est vrai, il y a toujours une très bonne ambiance.
Le cadre est extrêmement sérieux, très amical, très chaleureux. Très légitimiste, quoi.
Royaliste.
C'est bien. Alors, les conditions, les dates?
Alors, les conditions, c'est donc du... Alors oui, les dates d'abord, c'est du 23 juillet, du mercredi soir au dimanche. Mmh. Et le dimanche, il y a la journée porte ouverte, où l'on peut venir pique-niquer à la messe traditionnelle et une conférence l'après-midi avec justement Claude Rousseau, qui est professeur de philosophie qui a publié plusieurs ouvrages, dont Les Illusions républicaines.
Une grande belle figure, c'est vrai.
Qui nous parlera des nations occidentales peuvent-elles résister à l'économisation du monde.
Et ça se passe donc, vous nous l'avez dit.
Alors, du 23 juillet au 27 juillet, on en joue.
Et les conditions, alors, l'hébergement, par exemple.
L'hébergement, peut-être sur place ou à l'extérieur. Sans hébergement, le prix est 110 euros. Pour le dortoir étudiant est 59 euros. Et le dortoir, pour ceux qui ne sont plus étudiants, 100 euros. On peut venir en chambre à deux ou trois personnes. Ou en chambre individuelle, chambre à deux, trois personnes, 170 euros. Et on peut venir uniquement le samedi et le dimanche, si l'on veut. Les jeunes en dortoir, c'est 15 euros.
Très bien. Alors, pour tout renseignement,
nous écrire à l'Auberdière, château de l'Auberdière, 4950, Bossé, c'est à côté de Baugé. Donc, je répète, château de l'Auberdière, 4950.
Il faut que vous expliquiez l'Auberdière, parce qu'il y a au moins.
Oui, l'Auberdière, l'apostrophe AUBERDU, accent grave, RE, 4950, Bossé, BOCE. Et le téléphone, 02 41 82 72 03. 02 41 82 72 03.
Il faut dire que c'est dans un paysage magnifique, c'est le jardin de la France. Hein.
Oui, l'Anjou, c'est vrai, c'est la douceur, ce qu'on dit, la douceur d'Angevine. Mais on est entouré de forêts, en plus, voilà.
Si y a un moment où on trouve, on sait jamais, ça peut arriver, un esprit un peu léger pour trouver que les conférences sont par moments pesantes. Alors on peut s'éclipser discrètement par la porte de derrière et aller randonner dans les forêts environnantes et ça fait beaucoup de bien aussi.
Nous avons prévu une après-midi, d'ailleurs, à Montreuil-Bellay, qui est un village, village fortifié, avec Monsieur René Combre, qui est conférencier, guide conférencier.
Alors, si je peux me permettre de donner un conseil personnel, quand vous allez au château de l'Auberdière, vous emportez dans votre besace un livre que chaque Français devrait avoir lu au moins 7 fois, et qui s'appelle La réponse du Seigneur, d'Alphonse de Chateaubriand, qui est un chef-d'œuvre inégalable, et c'est exactement l'endroit où il faut lire ce livre. Merci, monsieur Delcourt.
C'est moi qui vous remercie.
Je ne vous souhaite pas que ça se passe bien, parce que je sais que ça se passera très bien, comme toujours.
Merci, monsieur.
Et vive le roi.
Vive le roi.
Vous me laissez les...
Je vous sentais bien dans l'enveloppe, puisque je devais vous l'envoyer.
Ah, très bien, merci beaucoup. Voilà, comme ça je pourrais renseigner des auditeurs qui m'en ont. Alors, je pense qu'on va donner la parole à monsieur Benesto. On va garder le sport, si vous voulez, monsieur Lebidic, le vélo, pour terminer sportivement cette soirée. Alors, monsieur Benesto, vous êtes psychologue clinicien. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots de quoi il retourne, de quoi il s'agit, quelle est cette activité?
Bien, depuis bientôt une trentaine d'années, je travaille dans les milieux hospitaliers où nous sommes amenés à faire des bilans médicaux pour des enfants qui sont en difficulté d'ajustement psychosocial, des difficultés avec l'école, des difficultés dans la famille. Et donc, en tant que psychologue clinicien, je suis amené à faire un certain nombre de consultations avec en tête l'élaboration et la participation au diagnostic pour que les milieux médicaux puissent proposer les meilleurs remèdes à ces difficultés.
Donc c'est à la fois une assistance aux malades et un conseil aux soignants.
Voilà, voilà.
Et vous vous êtes intéressé à la psychanalyse et à Freud dans quelles circonstances ? Qu'est-ce qui vous a amené ? C'est professionnel ou...
Inévitablement. j'ai commencé ma carrière en 1974, et à la fin de mes études, après avoir navigué dans les milieux enseignants et avoir entendu dire que la psychanalyse c'était vraiment le nec plus ultra en matière de théorie et de pratique et de compréhension des problèmes humains, on m'a proposé un poste d'enseignement à la faculté de médecine, où je travaille encore d'ailleurs. Et parmi les modules d'enseignement qu'on m'a confiés, il y avait la psychologie générale, la psychologie du développement. Et j'ai donc eu à enseigner la psychanalyse, son édifice théorique, son histoire, son contenu, ses diverticules. Et en même temps, la psychologie générale, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait depuis très longtemps, une discordance entre, d'un côté, la psychologie scientifique, qui avait poursuivi ses progrès depuis le début du XXe siècle, indépendamment de la psychanalyse, et puis de l'autre côté, tout le corpus de l'idéologie psychanalytique. Et j'essayais de me pencher pour essayer de comprendre comment il se faisait qu'on en était arrivé là, entre d'un côté la psychanalyse, qui prétend tout savoir et qui est infiltrée partout dans les milieux hospitaliers que je fréquentais par ailleurs, et puis d'un autre, la psychologie scientifique.
Alors pour le béotien que je suis, ça paraît... La différence, ça va vous paraître énorme ce que je vais vous dire, mais la différence entre la psychologie clinique et la psychanalyse est pas très claire. Est-ce qu'il n'y a pas une partie psychanalytique dans le matériel de la psychologie clinique, et est-ce qu'il n'y a pas une partie de psychologie clinique dans le comportement, enfin dans la méthode des psychanalystes ? C'est pas un peu mélangé ?
On peut aujourd'hui être psychologue clinicien en ignorant tout de la psychanalyse. Et les psychanalystes, de leur côté, ignorent tout de la psychologie scientifique. Ce que je vous dis, cette division, cette discordance entre deux mondes. Le monde de la psychanalyse qui vit dans un univers que je dirais presque virtuel, qui n'a plus de rapport avec les réalités. Et puis de l'autre, le territoire de la psychologie.
Alors quel est ce territoire, la psychologie ? On sait ce que c'est qu'un psychologue scolaire, par exemple, parce qu'on en a tous connu quand on était à l'école, ou parce qu'on a emmené nos enfants voir le psychologue scolaire à un moment ou à un autre. Mais en fait, très souvent, on a l'impression, quand on est un béotien, encore une fois, que le psychologue scolaire, c'est quelqu'un qui tripatouille un petit peu la psychanalyse.
Le psychologue scolaire fait en
je me souviens, je parle oui. De ça parce que j'ai le souvenir d'un psychologue scolaire auquel j'avais été prié de m'adresser parce que mon fils avait des difficultés de l'ordre de la dyslexie, et qui m'a expliqué que ça se passait dans un quartier où il y avait beaucoup d'étrangers, donc il avait l'habitude de rencontrer des gens qui ne lisaient pas. Et il m'a commencé par m'expliquer que c'était un enfant qui avait des difficultés à la lecture parce que, naturellement, il vivait dans un milieu sans livres. Et quand je lui ai dit, écoutez, là, je pense que vous prenez un mauvais chemin parce que j'ai une bibliothèque de 6000 bouquins, donc on peut dire que... Et alors, immédiatement, il a fait volte-face en disant, ben voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'il est accablé par les livres qui sont pour lui une concurrence.
Et donc il a fait le contraire.
Dans la passion que vous devez. Voilà. Alors donc c'était de ma faute, bien entendu, parce que je lui donnais pas à lire, puis après parce que j'avais trop de livres. Donc là je me suis posé la question, je lui ai dit d'ailleurs, je pensais pas perdre mon temps plus longtemps avec un charlatan, et je suis parti. Mais je pense qu'il était plus psychanalyste que psychoclinicien.
Oui, là je pense qu'il a utilisé un système d'interprétation qui lui permet toujours de retomber sur ses pieds. Et avec la psychanalyse c'est infiniment commode parce que vous avez, par la connaissance de quelques clés qui sont dans les livres, dans les grimoires de la psychanalyse, la possibilité d'accéder, voilà, vous avez la possibilité d'accéder à la compréhension de tous les phénomènes humains sans ouvrir un seul livre de psychologie scientifique. Mais une fois que vous êtes entré dans cette église, vous avez tout compris.
Alors, là vous venez de prononcer un mot, vous avez dit église, moi j'aurais plutôt tendance à dire secte, mais c'est la... Alors, justement, ce qu'on découvre en lisant votre livre,
c'est qu'une fois que vous avez fait ce constat, vous, de l'imposture, de la psychanalyse, vous, ce qui n'est pas un constat nouveau, puisque le professeur de Boivitzen l'avait fait plusieurs fois, quand il avait une émission sur cette radio il y a quelques années, où il est revenu plusieurs fois sur ce sujet, où il a montré tout le ridicule de l'imposture et toute la nocivité de ce mensonge. Mais où vous allez, me semble-t-il, plus loin, c'est quand vous posez un regard pratiquement d'ethnologue sur le milieu de la psychanalyse.
Plus exactement d'historien.
Ethno-historien, disons. Et vous nous dites, et vous démontrez que c'est, quand je dis une secte, si on était désagréable, on pourrait même pousser la plaisanterie jusqu'à dire que c'est un gang. Parce que, il y a toutes les apparences extérieures d'un gang qui protège une formidable imposture.
Une secte qu'on appelait une secte mafieuse. Je crois que c'est Catherine Clément, la psychanalyste marxiste française, qui a utilisé ce qualificatif. Oui, ça fait beaucoup.
Catherine est marxiste, là.
Oui, mais enfin, pendant très longtemps, ils ont côtoyé, hein, chacun cherchant son pouvoir en s'appuyant sur l'autre et en rejetant. Bon. On a dit aussi que Freud était le parrain. C'est un terme qu'on a utilisé. Moi, ce que je livre dans ce livre, à ce propos, c'est juste un certain nombre d'exemples, mais montrant la dérive sectaire qui est apparue très rapidement, surtout à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, pour essayer de s'emparer du pouvoir dans le monde, oui, au sens large, et puis aussi dans le monde médical et psychiatrique. Mais s'il fallait parler de la secte psychanalytique, ce serait un deuxième livre d'égale épaisseur.
Alors, ce que vous faites dans ce livre aussi, c'est que enfin, il faut employer le mot, vous massacrez littéralement la figure de Freud. C'est-à-dire que tout ce qu'on raconte sur Freud depuis des années, vous démontrez que c'est une accumulation de mensonges et de carabistouilles. Il n'est rien de ce qu'on a dit qu'il était, et il est pratiquement tout ce qu'on a dit qu'il n'était pas. Alors, tout est inventé chez lui, tout est mensonge en permanence. Quand il raconte la genèse de son intuition psychanalytique, il invente des histoires, il cache d'autres histoires qui pourtant pourraient éclairer son passé, enfin son comportement à la lumière même, enfin en utilisant les outils de la psychanalyse. Est-ce que vous pouvez développer ça en peu de mots, cette espèce de double mensonge de Freud?
Mais oui, en réalité, tout cet ensemble de dossiers paraît totalement accablant, effarant pour le public français, mais tout cela est bien connu, même s'il y a des éléments assez récents, bien connus dans la littérature internationale. Mais ce qu'il y a de singulier, c'est que en France, la pénétration culturelle du haut en bas, dans les médias, à l'intérieur des universités, est telle, cette pénétration, que on n'a absolument aucune connaissance de ce qui se fait à l'extérieur. Et un grand nombre de ces publications sont totalement ignorées, ne sont pas traduites à quelques toutes petites exceptions près. Et donc ça paraît tout à fait effarant, parce qu'on a été longtemps tenu dans l'ignorance de ce qui se fait sur la psychanalyse partout ailleurs dans le monde. Alors ce qui est apparu durant les 30 dernières années, surtout depuis le milieu des années 1980, c'est qu'il y a eu toute une entreprise de désinformation très active qui s'est faite dès le début de la psychanalyse, qui se poursuit encore aujourd'hui et qui a caché un certain nombre de secrets. Donc ça, c'est le premier niveau. On cache les informations essentielles. Bon, par exemple, l'essentiel des archives historiques sur la fabrication de la psychanalyse est entreposé encore aujourd'hui à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. La bibliothèque du Congrès, je crois savoir que c'est la plus grande bibliothèque au monde. Plus de 120 millions d'objets. Et dans différents secteurs, il y a un secteur des manuscrits, sont entreposés un certain nombre d'archives regardant l'histoire des religions, regardant même des dossiers classés secrets, comme par exemple les dossiers sur l'assassinat de Kennedy qui sont encore entreposés, qui seront, l'assassinat de Kennedy c'était en 1963, ils seront accessibles à la fin de cette année-ci, en 2003. En 1951, le mouvement psychanalytique, qui est partout diffusé dans le monde, a entreposé plus de 85 000 documents, les correspondances de Freud, les manuscrits, les échanges qui se sont faits entre les, ce qu'on appelle les pionniers de la psychanalyse, et un certain nombre de documents personnels que Freud avait laissés, plus ses successeurs, plus les membres de sa famille. Ils ont été entreposés en 1951, dans la section des manuscrits à Bibliothèque du Congrès. Et en 1951, l'essentiel de cette information a été fermé dans des coffres-forts pour interdire à des historiens et à des auteurs ou à des spécialistes qui n'étaient pas freudiens, pour leur interdire d'accéder à ces informations. Il y a une lettre extraordinaire qu'on a découverte en 2001, donc 50 ans après, une lettre extraordinaire de la fille de Freud, disant qu'il fallait absolument que ces documents, par écrit, disant que ces documents ne devaient pas être rendus accessibles. Et les historiens de la psychanalyse, pendant de très nombreuses années, étaient les psychanalystes qui accédaient à ces informations, qu'ils ne livraient pas parce qu'elles étaient toutes contraires à ce que Freud avait laissé entendre.
Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme document
Bon, il y a plus de 35 000 lettres. 80% a été caviardé. Il y avait des manuscrits de Freud, des correspondances. Et quand, au fur et à mesure, on a commencé à pouvoir y accéder, on s'est rendu compte que Freud, en réalité, avait menti, et on a caché qu'il avait menti. Et justement, la démonstration du mensonge se trouve, entre autres choses, à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis à Washington.
Alors, quand on dit qu'il a menti, ça veut dire qu'il a menti scientifiquement, il a fabriqué de faux résultats,
oui.
Il a inventé des cas.
Il a inventé des patients, il a inventé des symptômes, il a inventé des étiologies, il a inventé des effets thérapeutiques que par la suite on n'a jamais confirmés d'ailleurs, et tout l'essentiel de son édifice théorique est fondé sur, il faut bien le dire, on ne peut pas parler autrement, sur un mensonge.
Alors, il faut préciser quand même une chose, parce que l'objectif de cet entretien n'est pas de livrer le contenu du livre, parce que ce serait complètement impossible d'ailleurs, c'est un livre énorme,
400 pages, très dense.
Vraiment dense. Mais c'est d'amener à lire ce livre. Or, c'est un livre, c'est pas simplement, ce que je voudrais dire, c'est pas simplement un travail d'historien qui dit voilà, on a menti, etc. C'est aussi un travail qui est directement utile à la compréhension d'un système. Parce que vous consacrez, par exemple, des pages à un personnage qui reproduit presque à l'identique le comportement de Freud, l'imposture freudienne, c'est Bettelheim.
Oui.
Dont vous démontrez, c'est effrayant quand on lit, parce que quand on pense à l'importance que Bettelheim, Bruno Bettelheim, qui était le pape de l'autisme, enfin qui a été présenté comme le pape de l'autisme, on découvre dans votre livre que c'était un menteur, un imposteur complet. C'est un type qui racontait n'importe quoi, qui prétendait avoir fait des études qu'il n'avait jamais fait, qui prétendait qu'il avait été un héros de la résistance, ce qui n'était pas du tout, qui prétendait qu'il avait été déporté et torturé, ce qui était faux, qui prétendait qu'il avait des diplômes qu'il n'a jamais eu. Enfin, c'est ahurissant quand on lit ça. Et quand on voit à quel point aujourd'hui on peut vérifier point par point, presque jour après jour, l'activité d'un homme, c'est quand même pas difficile de vérifier si quelqu'un a un diplôme d'une université de Tel Aviv ou du Massachusetts. Or, Bettelheim m'a raconté qu'il avait des diplômes qu'il n'avait pas. Il a raconté qu'il avait fait des enquêtes qu'il n'avait jamais faites. Vous racontez par exemple qu'il prétend avoir passé 7 semaines à interroger des jeunes dans des kibbutzim en Israël. On s'aperçoit que, enfin, vous dites qu'il, en fait, c'est même pas une semaine. Il prétend qu'il a interviewé 40 000 personnes, il en a peut-être interviewé 12. Enfin, l'imposture est totale. Donc ça, c'est utile aujourd'hui même parce que il y a encore beaucoup de psychanalystes, de prétendus psychothérapeutes psychanalystes qui prétendent soigner l'autisme, traiter l'autisme par les méthodes qu'un imposteur a fabriqué de toutes pièces.
Oui, c'est quand même au sujet de cette idéologie Bettelheim, elle a en France grâce à des associations de parents et de défense de l'autisme, cette attitude a quand même très nettement régressé. En outre, le livre formidable de Pollack sur Bettelheim, qui rapporte l'essentiel des informations, quoi qu'on puisse déjà en trouver dès 1990, donc une dizaine d'années avant, chez Rosen par exemple, le livre de Pollack vient d'être traduit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que voilà la démonstration d'une imposture d'un homme qui était un menteur, un manipulateur, et qui agressait les familles pour culpabiliser les parents. C'est épouvantable. Sans jamais d'ailleurs penser un seul moment que les familles puissent être détruites par la présence d'un autisme. C'est dégueulasse. Ce livre donc de Pollack, qui a révélé la mascarade, vient d'être traduit en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Pollack, dont j'ai eu quelques informations indirectes par un ami qui est historien de la médecine, qui est en rapport avec Pollack, a cherché pendant des mois et des mois à faire traduire son livre en France. Il a tourné dans 12 maisons d'édition. 12 maisons d'édition. Parce qu'il y a un barrage.
Mais je crois que vous, avec votre livre, vous avez des
difficultés. 16. J'ai tourné 16 maisons d'édition. Et deux n'ont toujours pas répondu.
Et je peux vous garantir, pour l'avoir, je l'ai pas lu complètement, mais pour l'avoir lu comme nous autres journalistes lisons les livres, c'est-à-dire en piochant dedans, en faisant un peu des carottes, si j'ose dire, de lecture, que c'est, à chaque fois que j'ai commencé un paragraphe, j'ai lu plusieurs pages parce que j'étais pris. C'est un livre qui est remarquable, qui est passionnant et qui est très bien écrit. Donc, l'argument des 16 éditeurs, ne peut pas être que c'est un mauvais livre, parce que c'est exactement le contraire d'un mauvais livre.
Ouais, il a d'ailleurs reçu, au mois de mars, le premier prix à l'unanimité de la Société d'Histoire de la Médecine, Société française d'Histoire de la Médecine. Donc on a beaucoup de mal à imaginer que ce soit un livre de mauvaise qualité. Ouais. Ce livre est connu maintenant aux États-Unis, il va peut-être être traduit. J'ai reçu des éloges de la part des savants dont j'ai utilisé les travaux, disant que finalement il était heureux qu'un livre d'une telle qualité puisse enfin être porté à la connaissance des lecteurs français.
Ouais. Alors quand je dis que c'est un livre utile, j'insiste sur cet aspect de la question, parce que par exemple, vous apportez une information que moi j'avais vue nulle part. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais bon, j'ai lu pas mal de choses, j'ai lu quelques petites choses là-dessus. C'est le nombre ahurissant de suicides qu'il y a dans l'entourage de Freud, dans sa famille et parmi ses patients. C'est pratiquement c'est un véritable génocide de patients. On a l'impression que toutes les personnes qui ont passé plus de 5 heures en sa présence finissent par se flinguer.
Oui, c'est peut-être un peu excessif. Il est vrai que on n'a que quelques chiffres à peu près vérifiables. Entre 1906, 1908 et 1938, jusqu'à l'Anschluss, l'Association internationale de psychanalyse avait, si ma mémoire est bonne, un peu plus de 307 membres inscrits et référencés. Il est clair aujourd'hui, depuis les études en particulier de Rosen, un historien d'ailleurs qui s'est vu interdire ensuite l'accès, encore une fois, aux archives de l'histoire de la psychanalyse, on sait aujourd'hui que sur ces 307 personnes inscrites donc avant 1938, les pionniers de la psychanalyse, considérés comme les meilleurs, les fondateurs, la plupart ayant été d'ailleurs psychanalysés par Freud soi-même, sur ces 307, 25 au moins se sont suicidés. On a la liste à un moment ou à un autre,
Pourcentage.
Alors sachant que
supérieur à la moyenne de la population.
Oui, la population générale, on estime que la fréquence serait de 25 sur 100 000.
Oui,
donc 25 sur 350, 25 sur 100 000.
3000 fois plus.
Le comité central du parti bolchevique. Staline.
Oui. Mais ce qui serait peut-être plus intéressant de savoir, et là encore, des informations très probablement règnent, c'est la fréquence des suicides dans le rang des Lacaniens. Là, je pense que...
Avec l'aide des autobus, même parfois.
Oui. Oui, là, je pense qu'on a fait un peu plus fort. Des plus célèbres, c'était un jeune anthropologue appelé Lucien Sebag, qui a été assez célèbre dans les années 60, je crois, si ma mémoire est bonne, qui s'est suicidé à 32 ans. Lucien Sebag était un homme extrêmement brillant. Il avait une jeune fille, oui, 32, oui, il avait 32 ou 34 ans. Il avait une jeune fille, une adolescente, et il se faisait en même temps psychanalyser par Lacan. Et il s'est suicidé le jour où il a appris que Lacan voulait avoir des rapports sexuels avec sa jeune fille adolescente. Il s'est suicidé.
J'allais vous dire justement, Monsieur Benesto, que si vous dites et pensez autant de mal de Freud, alors qu'est-ce que ça doit être pour des épigones comme Jacques Lacan, sans parler des épigones de l'épigone comme les frères Miller. Monsieur Benesto, fait des gestes.
On est en train d'en sérieux. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je crois qu'il faut. Je crois pas. Je suis certain qu'il faut lire ce livre qui est vraiment.
Ah, c'est pas évident les références. Hein. Ça fait un moment que je le retourne. Ouais. Donc, alors, c'est un éditeur liégeois.
Mardaga, ça s'appelle.
C'est un éditeur belge qui est assez célèbre dans le monde de la psychologie parce qu'il a toute une collection de livres scientifiques de qualité. Au départ, ce livre, je le destinais à l'honnête homme. Je pensais viser les éditeurs beaucoup plus larges. Public, parce qu'il est destiné au public, non pas aux spécialistes. A priori, le spécialiste peut le lire, évidemment.
Oui, c'est pas un travail.
D'ailleurs, c'est ce qui explique la présentation un peu facile à lire. Mmh. On y rentre un peu comme dans un roman. Bon, au départ, il faut ouvrir la porte, c'est un petit peu difficile, et puis on rentre, on m'a dit, c'est passionnant, on a l'impression de lire du Sherlock Holmes. Et puis donc, comme cela a été refusé, j'ai fini par penser à cet éditeur belge, Pierre Mardaga, qui est donc de Liège, enfin Bruxelles, et parce qu'il y a des années de ça, il avait publié un excellent livre, qui en est aujourd'hui à sa 8e édition, dont personne n'a parlé aussi, il a été un des prédécesseurs de celui-ci, de Van Riller, qui s'appelait Les illusions de la psychanalyse, chez le même éditeur, et il continue de se vendre. C'est un livre qui porte sur un autre aspect. Là, celui-ci est historique, le sien était plutôt un travail d'une réflexion psychologique.
Alors, sur le parti pris d'écriture, vous disiez que ça faisait penser à Sherlock Holmes, et moi j'ai trouvé plutôt qu'il y a des passages qui font penser. Vous vous souvenez de cette émission sur le feuilleton américain qui s'appelait Les Incorruptibles? Il y avait un ton très vif, comme ça, avec des dates, avec des heures. On disait le 24 octobre 1937, à 4h de l'après-midi, je sais plus qui rentre dans moi. Et là, je vais vous lire un passage, c'est exactement ça, vous allez voir. En octobre 1912, inquiet, il s'apprêtait à écrire à Sándor Ferenczi pour demander aux Hongrois pourquoi il ne lui avait plus envoyé de lettre depuis plusieurs jours. Tout à coup, Freud s'arrêta, car penser à rédiger ce courrier coïncidait avec le fait qu'un message télépathique lui parvenait vraisemblablement de Budapest. Il était quand même pas à moitié fou. Hein. Sigmund tient compte du renseignement subliminal, puis remit la lettre à plus tard pour éviter les interférences et que les courriers se croisassent. De fait, la lettre tant attendue de Ferenczi arriva, ce qui le réconforta. Le 1er octobre 1909, à leur retour des États-Unis, Ferenczi et Freud vont à Berlin consulter Frau Seidler, une célèbre diseuse de bonne aventure. Freud est convaincu qu'elle détient le pouvoir de lecture directe des pensées, en particulier de celle de Ferenczi qui a le talent d'émetteur-récepteur. La voyante à qui ils avaient montré une lettre découvre en explorant l'esprit de ses clients, au stupeur, qu'elle venait de Vienne. Freud est fortement ébranlé par la divination extralucide de la provenance du courrier qui indiquait cette adresse en toutes lettres.
Voilà pourquoi le grand Nabokov parlait du charlatan viennois.
Voilà pourquoi il faut lire ce livre, parce que vous allez vraiment vous régaler. C'est comme ça.
Comment est-il diffusé ?
Dans toutes les bonnes librairies, j'imagine.
Toutes les bonnes librairies, on peut le FNAC, les grandes maisons de diffusion, et puis également on peut l'acheter plus facilement sur Internet parce que le livre est en petite quantité chez les libraires.
Et sur Amazon.com par exemple.
Voilà.
Pour faire plaisir à Jean Ferré, il faut signaler qu'il y a un appareil critique, un appareil de référence bibliographique et un index extrêmement copieux, ce qui est toujours très 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 commode et qui permet de répondre. Par exemple, à cet auditeur, on n'a pas le temps de lui répondre directement, mais qui demande ce que vous pensez de Jung, c'est toujours intéressant de chercher dans l'index les parties où vous parlez de... Je crois que vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour lui, peut-être un peu moins d'antipathie pour Freud.
Au départ, j'en avais beaucoup plus que pour Freud. Ça me semblait très honnête. Et puis, en fait, depuis un certain nombre d'années, quelques publications américaines et canadiennes, notamment celle de Noyle, je suis obligé de reconsidérer mon point de vue. Je pense qu'il n'est ni pire ni meilleur que les autres. Sa dérive sectaire est assez semblable.
Alors, ça s'appelle Mensonge freudien, et c'est paru chez Mardaga.
C'est signé Jacques Benesto, et je vais donner le numéro d'ISBN pour les auditeurs qui vont se bagarrer avec un libraire freudien à Brive ou à Lyon. ISBN 2-4.
87009-814-6.
Mensonge freudien, histoire d'une désinformation séculaire.
Et alors, je signale aux amateurs de ces questions que le numéro, que les cahiers Saint-Raphaël, bulletin de l'Association catholique des infirmiers, des infirmières et des médecins, le numéro 70 traite de la folie, et le numéro 71 traitera de la psychanalyse, je vous signale ça, monsieur Benesto, avec en particulier un article consacré à votre livre. Voilà. Si je rappelle, donc, les cahiers de Saint-Raphaël, bulletin de l'Association catholique des infirmières et des médecins. Alors, si les auditeurs s'intéressent à ce bulletin, qu'ils me passent un coup de fil, je leur donnerai les coordonnées de la personne qui s'en occupe. Je ne vais pas les donner à la radio, parce que ça risquerait de lui attirer trop d'appels téléphoniques. Mais, inutile. Voilà. Et on change complètement de sujet, encore que...
On change de braquet,
c'est... On change de braquet. Encore que si Freud était là, il trouverait probablement des motifs extrêmement clairs à cet enchaînement. On passe de la psychanalyse, non pas à la bicyclette, je le répète, mais au vélo. Monsieur Lebivic, vous publiez aux éditions...
Desiris.
Un livre, parce que je ne l'ai pas sous les yeux.
Oui, je m'excuse justement de...
J'ai eu le manuscrit, mais pas le...
Oui, parce qu'en principe, il aurait dû paraître ces jours-ci, et pour des raisons techniques, on nous l'a promis que dans une petite quinzaine de jours.
Ah. En tout cas, moi je l'ai lu, toujours selon la méthode du carottage, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que j'ai découvert que, contrairement à ce que je pensais, le cyclisme, le vélo n'est pas du tout une activité de jeune homme en pleine fleur de l'âge. Ça peut aussi être une activité pour une personne qu'on appelle un senior maintenant.
Oui, bien sûr, et puis même depuis le plus jeune âge, hein, depuis les petits enfants qu'on voit commencer avec un tricycle, avec le père ou la mère qui pousse derrière, ensuite les jeunes qui s'en servent, si on peut dire, pour sortir entre copains, ensuite les familles qui aiment sortir en vélo le dimanche pour passer un bon après-midi, pour faire un pique-nique. Ensuite, ça va être la personne, j'allais dire, un peu plus âgée qui va faire des randonnées. Et des randonnées, ça peut vraiment être des petites randonnées de 50 à 60 km jusqu'à des grandes randonnées qui, par exemple, Paris-Brest aller-retour, qui va avoir lieu au mois d'août. Vers le
18. Moi, je pratique beaucoup le Paris-Brest, mais plutôt les pâtisseries.
Oui, oui. Et donc, Paris-Brest et les retours, ça représente quand même 1100 kilomètres, hein, fait d'une traite pour certains. C'est-à-dire que...
Combien, 1100 kilomètres?
1200 kilomètres.
Une traite.
Oui, ils font demi-tour sur la place, je ne sais pas quoi, ça tourne depuis très longtemps, je crois.
Oui, je crois...
Non, mais ils s'arrêtent de temps en temps, quand même, tu dis.
Non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Bon, ils partent de Paris, 80 kilomètres après, il va y avoir une étape, mais simplement, je veux dire, ils signent pour montrer qu'ils sont bien passés. Ouais. Une étape 80 km plus loin, ainsi de suite, jusqu'à Brest. À Brest, ils font demi-tour et ils reviennent sur la région parisienne avec le même principe. C'est-à-dire simplement...
Je suis incapable de faire ça en voiture. Je suis incapable de conduire 1100 km une automobile à pétrole. Et vous voulez me dire qu'il y a des gens qui font ça à vélo?
Justement, c'est dommage que Jean-Michel Richefort, qui est le
technicien du vélo.
Le technicien
du
vélo.
Vous êtes kiné?
Oui, c'est ça, kiné, ancien professeur d'éducation physique, etc. Et donc, Jean-Michel Richefort l'a quand même déjà fait 4 fois. Hein, c'est dommage qu'il soit pas là, vous voyez. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est bien connus, parce que tous les deux, on écrivait dans une revue cyclisme qui s'appelle Le Cycle. Donc on s'est connus comme ça. Et puis un jour, Jean-Michel m'appelle en me disant, bah, écoute, moi je veux faire Paris-Brest encore cette année, est-ce que tu peux me servir d'assistance? Alors donc, moi je l'ai suivi en voiture. Et à chaque étape, si vous voulez, mais pendant quoi, 5-10 minutes, je lui préparais le repas, je le massais un tout petit peu, j'ai une table de massage que je déplie vite fait, hop, il se mettait sur la table, je le massais, hop, il repartait, ainsi de suite, et il ne s'est pas arrêté, il n'a pas dormi.
Alors, il avait quel âge à cette époque-là?
Oh ben là, il a une petite quarantaine d'années, 45 oui, ans, donc il a commencé à 25 ans, il a dû commencer son premier Paris-Brest qui a lieu tous les 4 ans, il a dû le commencer à peu près 25 ans.
Enfin, ça c'est vraiment un effort qui dépasse la capacité.
Tous les 4 ans, depuis, vous alliez nous dire depuis quand?
Alors, depuis, je l'ai quelque
avant, fois. Avant la guerre, dites-le à un an ou deux, sans retourner toute votre documentation.
Bien avant la guerre.
Bien avant la guerre. C'est une manifestation véritablement traditionnelle. Ça fait aussi son intérêt.
Oui, bien sûr, où il y a en plus...
Ça n'a rien à voir avec...
Vous avez l'air d'en connaître un rayon, Goffman.
Oui, je suis un ancien futur Tour de France, mais j'en connais un sacré rayon. Ça n'a rien à voir avec la mode du triathlon et des exploits monstrueux qu'on développe depuis quelques années.
C'est disons que le Paris-Brest aller-retour, c'est à la fois, si on peut dire, une épreuve de masse, puisqu'il y a à peu près 20 ou 30 000 participants.
Vous entendez, Serge?
Oui, j'entends, je suis abasourdi.
Je crois qu'il doit y avoir dans ces 20 ou 30 000 participants, quelque chose comme 30 ou 40 nations. Donc il y a des Japonais, il y a des Russes, il y a tout ce que vous voulez, à peu près une bonne 20 à 30 nations. Et j'ai assisté une fois au contrôle des vélos. Quand vous voyez les vélos des Russes, moi j'en voudrais pas pour aller faire mon marché.
On a dit du mal de la Russie toute la soirée.
Des vélos russes.
Et des avions, et de Saint-Pétersbourg, dont c'est le 300e anniversaire bientôt.
Ça prouve d'ailleurs l'admirable héroïsme des Russes qui sont capables de faire 1100 km sur des biclos dont vous ne vous serviriez pas pour aller faire votre marche.
Non, par contre, alors les Américains, eux, ont du matériel assez sophistiqué, déjà une assistance très sophistiquée avec des caravanes, etc. Et ils ont même des vélos où vous pédalez couché sur le dos.
Ils ont vraiment des vélos tellement aérodynamiques qu'ils sont obligés de freiner pratiquement.
Parce que, alors en plus, dans ces vélos où ils sont couchés sur le dos, ces vélos sont très performants sur le plat, en descente, parce que la personne étant couchée, il y a un aérodynamisme qui fait qu'ils vont beaucoup plus vite que la personne debout. Et puis, par contre, dans les montées, alors là, ça pose des petits problèmes.
Nul n'est parfait.
Voilà.
Alors ça, donc, ça relève de l'exploit sportif de haut niveau, mais pour ce qui est du vélo pratiqué comme sport familial et sport d'entretien physique, sport de santé par des personnes, je dirais pas comme moi, parce que moi, ça y est, c'est fini, tout espoir est perdu, mais à part des gens comme, je dirais comme Patrick Goffman, qui est un vieillard aussi, mais qui est mieux conservé que moi.
Même je vois pas pourquoi vous dites pour vous. Tout le monde peut faire du vélo d'ailleurs.
Sauf pas de cadre qui résiste. C'est comme les chevaux, ils ont.
C'est un peu pour ça aussi qu'on l'a appelé le vélo pour tous. Et on a préféré le terme vélo au terme cyclisme. Parce que le vélo, on fait du vélo, c'est plus populaire, tandis que faire une course cycliste, il y a course cycliste, si vous voulez. Donc c'est déjà, peut-être pas des professionnels, parce qu'il y a de très très bons amateurs, bien sûr, mais le vélo est quand même plus populaire, et c'est le but de notre livre.
C'est vraiment un bouquin, si un jour quelqu'un dit, tiens, je voudrais essayer le vélo, c'est exactement le bouquin qu'il faut, parce que Richard a fait toute la partie technique, c'est-à-dire comment choisir son vélo, pourquoi il faut que la selle soit pas trop large, trop dure, pas trop étroite,
pas trop basse, pas trop haute.
Alors, comment il faut choisir son cadre, comment il faut quel guidon, alors avec des explications,
bien sûr.
C'est remarquable. Hein. Par exemple, si votre guidon est trop bas, vous allez avoir des douleurs dans la colonne vertébrale pour telle raison. S'il est trop haut, vous allez avoir une cabrure trop marquée, allez fatiguer plus vite. Point par point, c'est analysé, c'est bien. Quand on a fini de le lire, pour un peu, on a envie de faire du vélo. Moi, je me retiens. Mais... Hein?
Alors, si vous voulez, ce livre aussi, on l'a appelé, disons, en sous-titre, si on peut dire, Vélo Passion. Vélo technique et vélo santé. Alors vélo passion, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, que tout un chacun a envie de sortir pour se détendre, si vous voulez. Et le cyclisme est un des trois sports les plus pratiqués en France. Les autres sont la marche à pied, mais quand on dit marche à pied, c'est pas forcément... c'est la promenade, si vous voulez,
et la natation.
Mais il y a une dimension dans le vélo. Vous parlez de vélo passion. Moi, j'ai vu ça avec mon beau-père qui était un passionné de vélo. Et il y a une véritable, une passion, c'est-à-dire les amateurs, les vrais amateurs de vélo sont des gens qui sont capables de passé des heures à rechercher un machin Campagnolo, une Selle Brooks, une potence Tartampion, je ne connais rien, mais enfin, je me souviens de ces mots-là.
Vous connaissez quand même Brooks et Campagnolo.
Oui, parce que j'en ai entendu parler pendant, et je me souviens d'une randonnée en Auvergne. Bon, mon beau-père a quand même 30 ans de plus que moi, et à l'époque, j'étais jeune et fringant, et mince, et il m'a emmené en Auvergne. Alors, les 10 premiers kilomètres, j'étais le roi de la pampa, hein, parce que je me disais, le vieux, je vais lui mettre une heure dans la vue. Et puis, au bout de 2 heures de vélo, j'étais mort, littéralement mort, et lui se dandinait tranquillement sur sa bicyclette, pardon, sur son vélo, et je le suppliais d'arrêter pour aller boire un coup, ce qu'il a jamais voulu faire. Il m'a littéralement assassiné. Je pense que c'était une basse vengeance, d'ailleurs. Mais, c'était un homme qui, à l'époque, devait avoir pas loin de 60 ans. Et il était vraiment très, très à l'aise sur son vélo. Et c'était un véritable passionné. Voilà, voilà. Donc, j'ai découvert cet univers où on choisit les boyaux en fonction du terrain. Enfin, s'il pleut pas, s'il y a des cailloux, s'il n'y a pas de cailloux. Enfin, c'est une véritable passion. Là, ça dépasse l'activité de simple santé.
C'est-à-dire, lorsque vous commencez à faire du vélo, bon, je vais dire, vous fournissez un certain effort. Mais si on vous dit, tiens, tu devrais mettre un bon dérailleur, et qu'avec ce bon dérailleur, vous faites le même parcours avec beaucoup moins d'efforts, disons, bon, vous changez de dérailleur. Après, on dit, bah, tiens, tu n'es pas tellement bien sur ton cadre, tu devrais prendre des mesures plus précises. Et finalement, on avance comme ça, parce que on a commencé à faire du vélo sur un vélo moyen, et pour moins souffrir, progressivement, on apporte des améliorations.
Il y a quand même un paradoxe, là, parce que si vous prenez un haltérophile, bon, si vous dites à un haltérophile, tu sais, il y a des haltères beaucoup plus légères, ça ne l'intéresse pas.
Oui.
Donc, si on fait du vélo, c'est quand même pour faire un effort. Si à mesure que vous avancez dans le vélo, vous trouvez un matériel qui nécessite de moins en moins d'efforts, finissez par acheter un vélo Solex.
Pas de moins en moins d'efforts, mais de plus en plus de plaisir.
Ah oui.
Plus en plus de plaisir pour le même... pour le même dénivelé, disons, entre guillemets.
Excusez-moi, Serge.
Oui, j'en prie.
J'allais me lancer à mon tour dans une petite anecdote personnelle pour essayer de vous expliquer ce paradoxe. Je me souviens que j'ai couru quelques triathlons, et que pour le vrai triathlon que j'ai couru, j'étais content d'avoir mon papa, un maniaque comme ceux que vous évoquiez tout à l'heure, qui venait s'acheter une tige de sel en titane à 800 francs, bon, plus léger, un vélo plus léger que son beefsteak, il avait déjà plus de 60 ans, lui aussi. J'ai été drôlement content de laisser à la maison mon vélo qui était pas pourri, pourtant, qui était un vélo de course Peugeot, que j'avais aménagé, que j'avais customisé, amélioré toutes les façons possibles. Et le vélo de papa avec la tige de sel en titane, tout Campagnolo et ainsi de suite, j'aime autant vous dire que j'ai senti la différence quand j'ai dû courir, parce que c'est un peu une course quand même, 90 km après 1500 mètres de natation et avant 20 km de course, je ne serais pas arrivé au bout. Je ne serais pas arrivé au bout sans le vélo luxueux de papa.
Alors, il y a une réponse à la question qu'on vous posait tout à l'heure de la date de Paris-Brest. Seulement, voilà, il y a même deux réponses. Alors, deux réponses qui sont différentes. La première épreuve de Paris-Brest, c'est Paris 91. Mmh. Enfin, c'est en 1891. Et l'autre, c'est 93. Moi, je pense qu'il y en a un qui parle du départ, l'autre qui parle de l'arrivée.
Ou alors, il y a des gens qui confondent avec la course Paris-Brest.
Enfin, en tout cas, si je l'avais fait, c'est probablement ce qui serait passé.
Il y a également une course professionnelle Paris-Brest.
Il y avait,
du moins.
Et alors, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas totalement idiot, quand même, pour une fois. C'est un écrivain français tout à fait remarquable, et journaliste d'autant plus remarquable, c'est un collaborateur épisodique du Libre Journal, qui s'appelle Éric Arzel, et qui envoie un message, parce qu'il est breton, comme son nom l'indique, et il dit « Le Paris-Brest est une pâtisserie créée en l'honneur de la course dont vous parlez, et le vrai Paris-Brest est donc rond en l'honneur de la chambrière de secours créée par un pâtissier de Maison Lafitte.
Ah, »
Est-ce que vous saviez ça?
Non.
Vous voyez, le Libre Journal, on apprend des choses.
Donc,
c'est la radio ou...
Quand on fera une réédition du livre, on mettra ça comme anecdote.
Et puis, alors, et c'est encore pire.
Je viens de retrouver la date, vous voyez, j'ai 1891, effectivement.
Voilà. Et un auditeur nous dit, il y avait un Paris-Brest professionnel.
Oui.
En 1890, c'est l'origine de l'époque actuelle. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Quoi. Ça fait donc maintenant 113 ans qu'il tourne.
En tant que bon breton, moi j'avais mes grands-parents qui habitaient à Guingamp. Et à ce moment-là, lorsqu'on faisait le Paris-Brest, lorsqu'il y avait le Paris-Brest aller-retour, c'était sur la nationale. Tandis que maintenant, bon, ils sont obligés de prendre des petites routes départementales, si vous voulez, mais à cette époque-là, c'était sur la nationale et ça passait devant chez mes grands-parents. Donc, vous voyez, je devais être prédestiné.
Mais pas en 1890, quand même, vous n'étiez pas là.
Tout juste.
Alors, deux questions. Une qui vient d'un auditeur. Y a-t-il une méthode pour apprendre à faire de la bicyclette pour une personne adulte?
Non, il n'y a pas.
Parce qu'il peut pas avoir, si c'est une personne qui a 50 ans, on voit pas son père lui tenir la selle derrière en courant comme.
Ah oui, voilà. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, moi je pense qu'il faut, il faut se lancer et puis bon, c'est quand même difficile.
Pas sur l'autoroute.
C'est une question. Oui, déjà, c'est une question d'équilibre.
Et alors, la deuxième question que je pose au kiné. Mm-hmm. Quelles sont les indications particulières de la pratique du vélo, mm-hmm, et quelles sont les contre-indications s'il y en a?
Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est sport santé. On va parler des bienfaits, si vous voulez. Bon, on a vu la détente lorsqu'on est seul, en groupe, en randonnée, etc. Ensuite, il y a les bienfaits physiques. Alors, au point de vue respiration, bon, ça va augmenter votre capacité pulmonaire, si vous voulez. Vous allez mieux respirer de façon plus ample. Au point de vue circulation sanguine, le sang circule plus vite automatiquement, puisque le cœur...
Surtout quand on tombe.
Voilà. Puisque le cœur envoie plus de sang, disons, et les petits vaisseaux sont mieux irrigués. Ensuite, au point de vue cœur, il faut penser que le cœur, c'est un muscle, hein, puisque le myocarde, c'est le muscle du cœur. Hein. Donc, lorsque vous allez travailler votre cœur, le cœur va devenir plus performant. Et aussi, donc, aider la circulation sanguine. Ensuite, la digestion. Lorsque vous faites une bonne sortie, si vous voulez, sans parler de course, hein, ne parlons pas de course, ou quand même, souvent, on va un peu, au-delà de ses capacités pour essayer d'être le meilleur. Mais, ça va donc faciliter la digestion. Ensuite, le fait que le sang circule mieux, ça va aussi éliminer les toxines, c'est-à-dire faire circuler les toxines qui, en principe, lors d'un effort, se fixent dans les muscles. Donc, l'effort va éliminer davantage les toxines. Les muscles vont être plus puissants. Ensuite, alors au point de vue musculaire, c'est surtout les muscles des membres inférieurs qui travaillent dans le vélo, bien sûr, pour faire avancer la machine. En général, c'est les jambes, hein, qui font. Mais il suffit pas d'avoir de bonnes jambes. Si vous n'avez pas, par exemple, des bons muscles paravertébraux, vous aurez tout de suite mal au dos. Si vous n'avez pas des bons bras, vous aurez du mal à vous accrocher au guidon. Même chose si vous avez des articulations un petit peu raides, disons. Vous pédalerez de façon moins souple.
Okay. Donc, finalement, c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout âge, mm-hmm, sans contre-indication autre que pour tous les autres sports.
À tout âge, je vais vous raconter une anecdote. Je roule, moi, tous les dimanches. Je suis pas très, très fort dans les montées, et surtout, j'habite en Seine-et-Marne, et maintenant, les montées, c'est les ponts du TGV. Mm-hmm. Et un jour, on était entre amis, dans un des ponts du TGV, je me fais un petit peu décrocher, et tout d'un coup, je sens une poigne derrière moi qui me catapulte et me fait revenir avec les autres qui étaient 10 mètres devant. Je me retourne pour remercier, bien sûr. La personne, déjà, bon, assez âgée, et on commence à discuter, et il me dit, ben moi, j'ai fait deuxième aux Jeux Olympiques de Berlin. Sur piste. Donc, Jeux Olympiques de Berlin, 36, c'était 36. En 1936, et c'était ça il y a 5-6 ans. C'est-à-dire, j'ai fait le calcul, le gars, il devait avoir
83-84. Merci, monsieur Le Bivic. Alors, le vélo pour tous.
Alors, le vélo pour tous aux éditions Desiris. Voilà. Desiris, qui va paraître d'ici...
Bah,
d'ici une petite quinzaine de jours. Je vous enverrai un exemplaire, éventuellement, si vous pouvez...
On en reparlera. On annoncera à ce moment-là sa sortie.
Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Benesto, formidable, nous dit un auditeur. Ce qui prouve que ça lui fait plaisir. Et il nous dit qu'il y a... Alors, il sait tout, parce qu'il nous dit qu'il y a une épreuve américaine organisée par un certain Jonathan Boyer, qui s'intitule Coast to Coast, 4000 km au moins, et traverse les États-Unis d'est en ouest à bicyclette.
Tout à fait.
L'adresse pour commander la revue et le cahier de Saint-Raphaël, c'est ACIM, Association
catholique des infirmières et médecins, 20 bis place Duplex, 75 015 Paris, téléphone 03 21 10 52. Ça me paraît bizarre, ce numéro de téléphone. 03 21 10 52 11, en tout cas. Je vous rappelle que le Libre Journal organise son 10e anniversaire le 15 juin. Nous en parlerons plus en détail la semaine prochaine, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura le 15 juin, dimanche 15 juin, parmi les vedettes invitées, l'inventeur du piano sans solfège, et non pas du vélo sans sel, du piano sans solfège, Pierre-Marie. Dernière chose.
C'est la fête du cyclisme aussi le 1er juin prochain.
Il faut le dire, alors donc vous l'avez fait. Dernière chose, Philippe Conrad, conférence, l'histoire vraie de la guerre d'Algérie, mardi 3 juin à 20h30, salle Montgolfier, hôtel de ville de Versailles, 4 avenue de Paris, mardi 3 juin à 20h30, Philippe Conrad, l'histoire vraie de la guerre d'Algérie, la participation c'est 7 euros, salle Montgolfier, hôtel de ville de Versailles, j'ai tout dit, vénérable maître. Nous couvrons le temple. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 mai 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 29 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h.